C'est bon ?
C'est bon.
Alors, je vais dire pour les amis à distance que la séance de ce soir n'est pas seulement enregistrée, mais qu'elle est filmée. Donc, il y a tout un matériel très impressionnant dans la salle. Et donc, il est l'heure. Je vais commencer donc la dernière séance, la cinquième et dernière de cette année du séminaire. Et je vais la commencer. Je vais essayer de conclure en même temps à peu près correctement ce séminaire en répondant à peu près à la question que je posais. Qu'est-ce que faire dans l'urgence ? Mais je vais commencer par reformuler un petit peu certains éléments de la précédente séance, parce que plusieurs questions ou remarques adressées à l'occasion de cette séance m'ont un petit peu travaillé pendant la quinzaine, et je pense peut-être utile de préciser ou de repréciser une chose ou deux. Donc, qu'est-ce que j'ai essayé de dire il y a 15 jours ? Quelque chose comme ça, le pouvoir. Alors je vais parler latin, puisque la langue le permettait de distinguer, et qu'il y a une tradition, bien sûr, de ces notions. Le pouvoir, potestas en latin, n'est pas seulement, je crois, un concept politique. En tout cas, c'est ce que j'ai essayé de dire. Ça n'est pas seulement un concept politique, et je conclurai tout à l'heure le séminaire en revenant sur le sujet de la politique et sur sa compétence. Le pouvoir potestas, donc, n'est pas seulement un concept politique. Il y a, c'est ce que j'ai essayé de suggérer il y a 15 jours, une économie du pouvoir ou de relations à poser entre économie et pouvoir. Cette économie du pouvoir consiste à retenir la puissance, alors cette fois en latin potentia, d'où vient potentialité. L'économie du pouvoir consiste à retenir la puissance de la mise en œuvre. Alors je l'affirme en supposant que j'ai donné quand même quelques éléments de justification du propos il y a 15 jours en lisant Agamben. Alors si l'économie du pouvoir consiste à retenir la puissance de la mise en œuvre, à la laisser en rétention, rappelons-nous que Agamben parle de reverser le pouvoir en pouvoir de ne pas. Donc c'est ce reversé qui m'inquiétait il y a 15 jours. Alors, question qui était celle-là, donc il y a 15 jours, quelle portée à cette idée de garder en pouvoir le fait de faire comme de ne pas faire. Souvenez, le maestro, c'est celui qui peut aussi bien que ne pas, aussi bien faire que ne pas faire. Voilà. Mais quelle est la portée de cette idée de garder en son pouvoir le fait de faire comme aussi bien de ne pas faire. Alors, certes, je me souviens de la non-question et tout de même remarque de Jérémy, qui je crois est à distance ce soir et que je salue, l'objection, disons, qu'il m'avait faite concernant le personnage de Melville Bartleby, « I would prefer not to »,« je préférerais ne pas », et qui... je dirais, à force de répondre ça à toutes les injonctions qu'on lui adresse, finit par démolir toute la structure d'emploi qui le fait travailler. Alors certes, il y a ce que laisse entendre cette phrase fameuse, commentée par beaucoup, « I would prefer not to », mais cette phrase se place, je crois, du côté d'une désobéissance qui n'est pas intentionnellement, mais qui est de fait efficace. Donc j'interprète la phrase de Bartleby de ce côté-là, du côté de quelqu'un à qui une injonction est formulée et qui, d'une certaine manière, il ne désobéit pas littéralement. « I would prefer not to », il y a quand même un conditionnel, mais le fait est, c'est ce que montre la nouvelle de Melville, qu'il... il désingue, si j'ose dire, la structure de pouvoir qui s'adresse à lui. Bien, il y a cette affaire à examiner, que je place donc du côté de la désobéissance, qui n'est pas le champ dans lequel j'essaye de me situer, puisque j'essaye de me situer plutôt de l'autre côté, du côté du donneur d'ordre, si vous voulez, ou pas, celui qui donne ou pas. Donc, qu'est-ce qui se passe si on transfère la logique du maestro telle qu'on l'a analysée chez Agamben il y a 15 jours, qui peut ne pas jouer. Hein, le maestro pour Agamben, c'est celui qui peut ne pas jouer. C'est-à-dire l'habile et le talentueux sont ceux qui finalement se laissent toujours, à un moment ou l'autre, entraîner dans le fait de jouer pour montrer leur habileté ou leur talent. Le maestro est celui qui est capable de ne pas jouer, s'il l'estime judicieux. Donc, mais qu'est-ce qui se passe si on transfère cette logique du maestro pianiste qui peut ne pas jouer à celle du propriétaire de capital qui peut ou ne peut pas, ou peut ne pas plutôt, pardon, qui peut ou peut ne pas embaucher. Formellement, c'est la même logique. C'est ça mon problème. Ou qui peut, le propriétaire de capital, qu'est-ce qui se passe si on transfère au fond la logique de l'interprétation ou l'analyse d'Agamben au propriétaire de capital qui peut ne pas embaucher, ou qui peut, ici ou là, ne pas ouvrir au travail sa puissance d'investissement capitalistique, c'est-à-dire ne pas ouvrir un champ de travail, qui a la maîtrise de l'initiative, le propriétaire du capital a la maîtrise de l'initiative dans la mise en œuvre, ou il peut ou il peut ne pas. Ou qu'est-ce qui se passe si on transfère donc la logique d'Agamben au propriétaire de capital, dernière formulation, qui parvient à se réserver, je reprends le verbe, lu chez Agamben, comme on le voit déjà il y a longtemps dans la définition du despote chez Aristote, la dianoïa, c'est-à-dire l'envisagement, le fait d'envisager la mise en œuvre. Alors peut-être il faut que j'explique un petit peu. Il y a une définition du despote au début de la politique d'Aristote, qui en fait est une définition économique. Du despote, enfin si je lis le texte littéralement, c'est pas d'abord un concept politique, c'est pas un concept dont la pertinence se joue dans le champ de la police, l'espace de la cité, mais dans l'oikos, donc par traduction pour nous aujourd'hui, des espaces peu ou prou économiques. Donc là il y a un despote, et qu'est-ce que c'est que le despote, si on lit le texte de près, c'est celui qui a pour lui ce que Aristote appelle dans le vieux grec la dianoïa. Alors dianoïa, vous avez dia et noia. Alors noia, c'est l'esprit, c'est ce que je traduis par envisagement. Et dia veut dire à travers, voir au loin. Hein. Donc il y a celui qui a l'initiative d'envisager le faire. Et celui-là, c'est le despote. Son nom strict, c'est despote. Alors, je peux penser que quand Aristote dit ça, le nom est descriptif, qu'il n'est pas... Il me semble clair dans le texte d'Aristote que despote ne veut pas dire tyran, mais veut dire qui a l'initiative de la production. Donc il me semble, si je ramène à ça à nous aujourd'hui, que si je dis le propriétaire de capital, c'est comme le despote d'Aristote, c'est celui qui a pour lui la dianoïa, c'est-à-dire l'envisagement de la mise en œuvre, et qui peut déclencher ou pas cette mise en œuvre, alors je vais dire, selon une formule banale en français, selon son bon vouloir. Ce qui m'intéresse là-dedans, enfin ce que j'essaye d'extirper de tout ça, c'est que globalement, dans ce que j'appelais il y a quelques minutes l'économie du pouvoir, la puissance d'engager quelque chose, d'engager un fer, la puissance d'engager un fer est posée comme initiale. Dans tous ces raisonnements, la puissance d'engager un fer est posée comme initiale. Et ce que j'ai essayé de faire penser il y a 15 jours, c'est que la conséquence de cette position de la puissance en initiale, ou en initiative, si vous voulez, en commencement, la conséquence de cette position, c'est d'interdire, si on est logique, ce que le vieux grec appelait dynamis, qu'on a traduit par puissance, mais qui littéralement veut dire la dynamique. La conséquence du positionnement en initial de la notion même de puissance, hein, je peux ou je peux ne pas, etc. La conséquence, il me semble, c'est d'interdire la dynamique au second, à ce qui vient en second lieu. C'est-à-dire finalement, ce qui est dynamique dans une mise en œuvre, c'est la puissance qui initie, et le reste, c'est de l'exécution. Ça n'est pas porteur en soi de potentia, de potentialité, de puissance ou de dynamique. Alors c'est ça qui m'intéresse. Il me semble qu'il y a quelque chose qui pèse sur la pensée du faire depuis extrêmement longtemps, qui, met la puissance du côté de l'initiative et retire par conséquent la dynamique du côté de la mise en œuvre. Cette conception-là ne peut pas ne pas dévaluer, je vais y revenir ce soir, les notions de supplément, de réparation et d'amélioration, puisque ce sont des opérations secondes. Tous ces mots que je viens de dire, supplément, réparation, amélioration, sont des mots qui supposent que quelque chose a déjà eu lieu auparavant. C'est des mots qui désignent des opérations secondes. Et naturellement, je pense, pour ce qui me concerne, je vais en reparler, qu'elles ne sont pas secondaires, quoique secondes. Donc c'est ça que j'essaye de mettre en question, la capacité que nous avons ou pas de penser le second comme dynamique. Et autrement dit, c'est une formule que j'ai maintes fois écrite ou dite, parvenir à penser que le second n'est pas secondaire. Que ce qu'on fait et qu'on ne peut que faire en second n'est pas pour autant secondaire. Je reformule ça ce soir en disant, cette formule pourrait se traduire en disant, notre tâche est d'arriver à penser ce que nous ne pouvons faire qu'en second comme doté d'une dynamique particulière. Alors, note de bas de page que je ne vais pas développer, sur le point que je viens d'évoquer, il y a une pensée qui pèse sur nous, qui consiste à retirer au second la dynamique et par conséquent à dévaluer les idées de supplément, de réparation et d'amélioration. Le fait de dévaluer l'idée de supplément, de critiquer la dévaluation de l'idée de supplément, pourrait engager de ma part une discussion avec mon ami Michel Guérin et son livre « La troisième main », sous-titré « Des techniques matérielles aux technologies intellectuelles » paru chez Actes Sud en 2021. Donc je ne vais pas développer ce point, mais Michel Guérin donne un statut beaucoup plus problématique que je ne souhaite faire à la notion de supplément. Ça engage une lecture de Rousseau. On serait en désaccord sur la lecture de Rousseau, la notion de supplément telle que Derrida a montré qu'elle était pertinente chez Rousseau, etc. Enfin, il y a tout un débat conceptuel et théorique possible à construire derrière ça. Michel Guérin, il me semble, pose comme moins problématique la notion de complément. Dit qu'au fond, les problèmes se posent à partir du moment où on est dans une pensée du supplément. Voilà. Donc moi je dis, en sachant que c'est quelque chose qui donc pourrait donner lieu à discussion, que j'essaye de travailler pour une pensée qui ne dévaluerait pas les idées de supplément, de réparation et d'amélioration. Pourquoi la notion de supplément, j'y tiens, parce que je crois avoir lu un petit peu Louis Sullivan, je crois avoir essayé de commenter la phrase « form ever follows function », pas selon sa légende, mais dans le texte, dans le contexte du texte, et avoir montré que le « follows » de la phrase ne peut pas se comprendre sans impliquer la notion de supplément. Autrement dit, la forme est un supplément à la fonction et pas un complément dans mon interprétation des choses. C'est pourquoi je ne peux pas ne pas, d'une certaine manière, discuter avec ce que je crois avoir lu, au passage, chez Michel Guérin. Donc, la conception qui dévalue les idées de supplément, de réparation et d'amélioration contre laquelle j'essaye de penser, cette conception suppose que nous ne saurions rien faire sans avoir au préalable, sous une forme ou sous une autre, une idée qui a l'initiative, ou, selon un langage qui a obsédé les interprètes chrétiens de Paul, à partir d'Augustin, une volonté, ou encore, en un langage qui est cette fois plus moderne, une intention. Toutes trois, volonté ou idée ou intention, en dernière analyse posée comme décisive. Nous sommes héritiers d'une longue pensée qui reconnaît, alors appelez ça, j'allais dire comme vous voudrez, en tout cas ça varie, à la volonté d'initiative, à l'idée en premier lieu. Pour travailler, pour faire quelque chose, il faudrait en avoir une idée pour commencer. Et non seulement ça commencerait par l'idée, mais ça serait décisif ce qui se passe au niveau de l'idée. C'est ça le fait de mettre de la puissance du côté de l'initial et de retirer la dynamique au second. Voilà. Je propose pour ma part donc d'accorder de la potentialité et de la dynamique au second lieu, et de penser en conséquence, je viens de vous le dire, le second ou le second lieu comme non secondaire. D'ailleurs, argument en ma faveur, est-ce que ça n'est pas la situation réelle de l'humanité ? Aucune génération ne fait rien à partir de rien. Aucune génération humaine, autrement dit, toute génération fait quelque chose par définition, après qu'une autre a commencé à faire quelque chose. Ça ne veut pas dire que ce qu'elle fait est dépourvu de dynamique, et pourtant, elle le fait en second. Donc, aucune génération ne fait rien à partir de rien. Toutes les générations opèrent dans un monde déjà lancé et déjà opéré par ceux, par celles qui les ont précédées. Elles en poursuivent, par conséquent, le travail. Il y a une dynamique génération après génération des humains au travail, au jour le jour, si vous voulez, qui est inévitablement seconde. Le monde a toujours commencé avant nous, et pourtant, nous n'y faisons pas rien. Il y a une dynamique dans ce que nous faisons. Donc, cet argument pourrait, il me semble, suffire à justifier l'idée que le second n'est pas dépourvu de dynamique. Alors, pourquoi, dans l'économie du pouvoir, le serait-il ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi l'argument que je viens de donner n'est pas validé quand on est du côté du management du travail et qu'on on définit des situations d'exécution plutôt que des situations de dynamique opératoire. Quand bien même, par conséquent, nous aurions à tel ou tel moment de notre génération des idées nouvelles, des perspectives, mot qui pourrait traduire dianoïa, perspective, dianoïa, bon, quand bien même nous aurions des idées nouvelles à notre génération, des perspectives de la dianoïa quant à ce que nous allons nous mettre à faire à notre génération, ces idées, ces perspectives, cette dianoïa ne peuvent de toute façon pas se réaliser sans impliquer un rapport, qu'il soit de déblayage ou seulement de modification à ce qui est déjà et qui a été lui-même déjà œuvré. En fait, nous ne faisons jamais que réopérer le monde. Toute initiative de faire, me semble-t-il, déplace ce qu'il y a déjà et se trouve par conséquent elle-même toujours réellement seconde, quoi qu'elle veuille croire quant à elle-même. Voilà. D'une manière générale, toute question que se pose une génération quant à ce qu'il convient qu'elle fasse me semble a priori cadrée par les trois solutions que je vais dire. Toute question que toute génération se pose quant à ce qu'il convient qu'elle fasse en son nom, si vous voulez, en son initiative, est cadrée par les trois solutions que je vais dire, j'en vois pas d'autres. Soit conserver ou imiter ce qu'il y a. Qu'est-ce que nous allons faire, nous autres, qui sommes jeunes, enfin surtout vous, qu'est-ce que nous allons faire? Soit conserver le monde, ou, alors, variante, il faudrait discuter, faire des choses qui sont dans l'imitation de ce qui a déjà été fait, ce qui revient d'une certaine manière à conserver. Bon. Donc c'est la première hypothèse. Soit modifier. Donc c'est ce que j'appelle moderniser, en jouant sur le fait que ces mots modifier et moderniser, il y a mode dans les deux cas, hein, ils sont de même famille, soit évacuer ce qu'il y a déjà, raser, quoi, ce qui serait non pas la modernisation, mais le modernisme. Mais dans tous les cas, ce que nous faisons, ou ce que nous prenons l'initiative de faire, nous le posons, la position que nous avons quant à ça est analysable par rapport à quelque chose d'antérieur. Et pourtant, ce qu'on va faire soit conserver ou imiter, soit modifier, soit évacuer ce qu'il y a déjà, implique une dynamique en soi. En réalité, il y a une quatrième solution, qui est celle de la modernité stricto sensu. Donc moi, c'est les choses auxquelles je tiens, depuis au moins le livre « Moderne sans modernité hein, », qui était une discussion avec Bruno Latour. Je pense qu'il faut distinguer entre moderniser, modernisation, modernisme et modernité. La modernité serait une quatrième position hein, qui n'est pas conservée, qui n'est pas modifiée, qui n'est pas évacuée ce qui précède, mais qui consiste en la production d'un écart. Voilà, s'écarter de ce qu'il y a déjà. Ça serait la modernité stricto sensu telle que définie à partir de Baudelaire. J'y reviens un tout petit peu tout à l'heure. Mais pour envisager cette quatrième solution, il faut se référer... Alors c'est le point un peu délicat pour ce soir. Pour envisager cette quatrième solution, qui est celle en fait qui m'intéresse profondément, il faut se référer à une ontologie, à une pensée de l'être, qui devrait être capable de penser... D'une part, l'être. Je vais dire une phrase compliquée, je la commente après. Pour envisager la modernité, pour soutenir, si vous voulez, la notion de modernité, il faut se référer à une ontologie capable de penser, d'une part, l'être, moins comme un site auquel des propriétés sont attribuables. Ceci est cela, vous attribuez la propriété cela à ceci, et vous situez ceci. Métaphoriquement, quelque part, dans un lieu où il a ceci, la propriété cela. Il faudrait une autre ontologie que celle-là, j'y viens. Donc, d'une part, se référer à une ontologie capable de penser, d'une part, l'être moins comme un site auquel des propriétés sont attribuables que comme un état de fait dynamisable. Et il faudrait, d'autre part, se référer à une ontologie capable de penser le possible moins comme un futur que comme une gestation en cours. Et enfin, il faudrait se référer à une ontologie capable de penser la production moins comme la réalisation d'un projet que comme un processus que j'oserais dire ce soir fœtal. Puisque je viens de parler de gestation, un processus fœtal. Pas la réalisation d'un projet, mais un processus fœtal. Imaginez, laissez-vous aller la pensée avec cette formule. Voilà. Alors, j'ouvre une parenthèse. Peut-être pour clarifier un tout petit peu ce propos, ce sont deux remarques sur la question de l'être à penser autrement que comme un site auquel on attribue des propriétés, mais comme un état de fait dynamisable. Eh bien, première remarque au passage, nous pourrions penser, par exemple, ça ne date pas d'aujourd'hui, comme dans l'esprit des stoïciens, qui étaient des contemporains de Paul, que rien n'est jamais défini ni doté d'attributs définitifs. C'est très intéressant, je connais très peu, très mal la logique des stoïciens, mais je crois que c'est très intéressant. Suivant la logique stoïcienne, nul arbre, c'est un exemple, hein, nul arbre n'est jamais absolument vert. Autrement dit, la phrase « l'arbre est vert », en tant qu'il attribue le vert à l'arbre, est pour un stoïcien toujours fausse. Car il n'y a pas d'arbre vert. Je veux dire, aucun arbre n'est jamais absolument vert. Qu'est-ce que c'est d'ailleurs que l'absolument vert ? Vous voyez ? Et donc, si on cesse de penser avec des phrases comme ça, « ceci est cela », et qu'on essaye de penser, vous allez voir, avec des verbes, ben on met de la dynamique. Pour les stoïciens, la phrase juste, ce n'est pas de dire « l'arbre est vert », c'est de dire « les arbres verdoient et ils verdoieront encore ». Donc on est dans... C'est pour ça que j'ai utilisé la métaphore de la gestation et du mouvement fœtal. L'arbre est verdoie. Voilà. Il n'est jamais vert. Ça change beaucoup les choses, il me semble. Donc, remarque au passage. On pourrait penser donc sur une ontologie et une logique qui ne serait pas une logique prédicative. S et P, sujet, copule, être et prédicat. Et deuxième remarque au passage, alors je ne sais pas si Yves Citon est à distance ce soir, comme il me fait l'amitié de l'être régulièrement, mais puisqu'il me pose souvent des questions, je vais le citer ce soir, dans un passage d'un livre qu'il a écrit avec Jacopo Rasmi, « Génération collapsonaute », sous-titre « Naviguer par temps d'effondrement », qui a été publié en 2020 au Seuil. Donc j'extrais cette phrase pour vous laisser méditer dans la foulée de ce que je viens de dire. « Aux entités qui sont appelées à être selon nos programmes de profit, entre parenthèses, futura, ce qui sera, il convient de préférer les entités qui sont appelées à naître et renaître encore, entre parenthèses, natura, ce qui naîtra. » Alors, Yves Citon et Jacopo Rasmi jouent ici avec les propriétés de la langue latine, futura d'où vient futur, et natura d'où vient nature, sont des formes verbales qui impliquent dans le temps verbal la notion qu'on traduit en français, justement en utilisant le futur. Ce qui sera, futura, ce qui naîtra, natura. Eh bien, la thèse du livre de Citon et Rasmi, l'une des thèses, je vous la relis, aux entités qui sont appelées à être selon nos programmes de profit, futura, ce qui sera, c'est-à-dire que les programmes de profit envisagent ce qui sera pour emmagasiner du profit, faire donc de la rétention finalement sur le futur. Il convient de préférer les entités qui sont appelées à naître et renaître encore. Et si vous dites ça, naître, renaître, renaître encore, donc vous êtes dans un processus dynamique, une pensée dynamique et fœtale selon la gestation, etc., eh bien, le mot, c'est natura, ce qui naîtra, nature. Je vous laisse méditer. Alors, sur cette base qui est, au fond, encore un rappel, peut-être un peu quand même un approfondissement sur un point ou deux de la séance précédente, sur cette base, je vous propose de relire, encore une fois, et pour la dernière fois, en tout cas cette année, littéralement, Paul, sans supposer, justement, que son propos est engagé dans l'ontologie et dans la métaphysique que je viens de discuter. Lisons une dernière fois ce soir Paul, sans l'impliquer dans une ontologie de type aristotélicienne, mais plutôt de type stoïcienne, si vous voulez. Ou bien en ayant en tête ce genre de distinction, futura, natura, etc. Bon. Lisons-le sans l'impliquer, sans le supposer engagé dans l'ontologie et la métaphysique que je viens de discuter. Dans ce cas-là, comment comprendrons-nous l'énoncé dont j'avais parlé il y a 15 jours, le vouloir, alors c'est ma traduction, le vouloir en effet est à demeure chez moi, mais quant à accomplir le beau, je ne trouve pas. Donc je reviens ce soir sur cet énoncé pour essayer de le comprendre, je dirais, si ça a un sens, littéralement. L'interprétation la plus sanctifiée, c'est le cas de le dire, de cet énoncé, le vouloir en effet est à demeure chez moi, mais quant à accomplir le beau, je ne trouve pas, l'interprétation la plus sanctifiée trouve son commencement le plus substantiel chez Augustin, au livre 8 des Confessions, qui est en fait un livre consacré à la volonté, qui en fait est un commentaire de ce passage de l'épître aux Romains de Paul. Cette interprétation sanctifiée depuis Augustin définit un champ de commentaires sur lequel se sera enchaîné, si j'ose dire, une fameuse série de penseurs, Luther en son temps, Heidegger, Hannah Arendt et Hans Jonas, auxquels justement, Adrien, tu pensais il y a 15 jours, qui ont chacun à leur tour repris le commentaire d'Augustin quant à Paul, et puis ensuite Heidegger reprend le commentaire de Luther qui commente Augustin qui commente Paul, et vous voyez, puis Hannah Arendt, puis Hans Jonas. Alors je sais tout ça parce que ces informations sont données dans le livre d'Olivier Boulmois, dans le passage où il cite précisément le verset de Paul que je discute. Cette interprétation sanctifiée consiste en fait, je crois bien, en regardant les traductions de près, cette interprétation sanctifiée consiste en fait à négliger la fin de la phrase de Paul que je vous ai lue et relue encore ce soir. Alors je vous la relis une dernière fois. Le vouloir, en effet, est à demeure chez moi, mais quant à accomplir le beau, je ne trouve pas. Alors, tout se passe comme si les commentateurs, les plus autorisés s'étaient attachés sur la première partie de la phrase, le vouloir, en effet, est à demeure chez moi. C'est-à-dire que le commentaire d'Augustin, c'est un commentaire sur quelle est la théorie de la volonté qu'il y a chez Paul. Je simplifie, mais en gros, c'est ça. Et puis ensuite, on embraye. Est-ce que Augustin a bien compris, etc. Et on discute, Luther, Heidegger. Bon. Mais la fin de la phrase, quant à accomplir le beau, je ne trouve pas, elle est plutôt négligée. Alors, j'ai appris en faisant des recherches pour cette séance, dont je ne vous parlerai pas, parce que finalement, je les ai trouvées pas pertinentes. Mais en tout cas, à un moment, j'ai lu des textes des encyclopédistes et j'ai constaté que dans l'article beau de l'encyclopédie, celui qui l'a écrit signale qu'on a perdu les textes d'Augustin sur le beau, et s'il n'empêche pas de parler de la position d'Augustin sur le beau, sans gêne, enfin, d'une certaine manière. Alors c'est dommage, parce que peut-être que justement, dans ces textes-là, Augustin commentait la deuxième partie de la phrase de Paul. En tout cas, ça ne nous est pas resté. Voilà. Donc, en fait, l'interprétation la plus sanctifiée du propos de Paul consiste à négliger la fin de la phrase. La phrase, autrement dit, est lue, et elle est même oubliée dans une certaine mesure, comme si Paul disait que l'accomplissement du beau n'est pas un sujet. Si elle est lue, c'est pour dire, quand il dit « quant à accomplir le beau, je ne trouve pas », c'est-à-dire, c'est comme s'il disait, en sous-entendu, « je ne trouve pas que ça vaille la peine d'en parler ». Voilà. Ouais, on peut négliger. Voilà. La phrase est lue comme si Paul disait que l'accomplissement du beau n'est pas un sujet. Du beau, dirait Paul en substance, selon ses interprètes majeurs, du beau, dirait-il en substance, je ne trouve pas qu'il y ait à s'occuper de sa présence, puisqu'il n'est pas à demeure chez moi, et puisque c'est le vouloir qui constitue l'habitat décisif de l'humain que je suis, le vouloir et non pas le beau, hein, qui constitue l'habitat décisif de l'humain que je suis, lequel vouloir, thèse de Paul, s'il se débrouille avec le bien et le mal, comme, ne trouve pas le beau comme son affaire. Hein. Il me semble que l'interprétation serait de dire, bon, le problème de l'humanité, c'est ce qu'elle veut, et le problème de la volonté de l'humanité, c'est qu'elle peut vouloir aussi bien le mal que le bien, et que, évidemment, c'est quand même un problème. Mais le beau, je ne trouve pas que ce soit une affaire. Et d'ailleurs, ce n'est pas une affaire pour l'être humain. Si l'être humain a demeure chez lui, si son habitat constitutif, c'est la volonté, et pas le beau. Mais le verbe utilisé par Paul, Eurisco, je ne trouve pas, ne pouvons-nous pas, malgré ces interprétations les plus autorisées et les plus sanctifiées, ce verbe utilisé, ne pourrions-nous pas l'entendre en un sens à la fois plus fort et plus précis? J'ai évidemment vérifié. Dans le sens que je vous propose d'impliquer dans nos méditations, le verbe eurisco, je ne trouve pas, je ne trouve pas, désignerait alors une rencontre. Eurisco, eureka. Hein? Eurisco, il y a eu rencontre pour moi. Je vais le dire comme ça, non pas j'ai rencontré, mais il y a eu rencontre pour moi. Hein? Donc le beau, dirait Paul, dans ce cas-là, c'est une interprétation beaucoup plus forte, je ne trouve pas, c'est-à-dire il n'est jamais arrivé à ma rencontre. Ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas un sujet de second intérêt. Donc, il est possible que le verbe employé par Paul désigne une rencontre, c'est-à-dire « eurisco » veut dire « je rencontrer »,« je rencontre ». C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'une rencontre? Il n'y a pas de rencontre s'il n'y a pas de phénomène qui soit au dehors. Si Eurisco veut dire rencontrer, ça suppose qu'il y a un phénomène qui doit son existence au dehors du sujet habité par ailleurs par la volonté. Alors, j'ai une note de bas de page sur Agamben, mais je passe. Si Eurisco a un sens plus fort que celui qui lui est apparemment donné dans la tradition d'interprétation, alors le beau serait un dehors du sujet habité par la volonté que ce sujet est susceptible de rencontrer. Et pour ce qui concerne Paul, dit-il, je ne l'ai pas rencontré, puisque c'est écrit à la première personne. Mais le fait que je n'ai pas rencontré le beau ne veut pas dire que c'est... Que toute rencontre du beau soit impossible pour l'humanité en général, ne voudrait pas dire cela, ni que ce soit, comme j'ai dit il y a quelques secondes, un sujet de seconde zone. Ce phénomène qui devrait son existence au dehors du sujet habité par la volonté serait, par conséquent, certes, involontaire. C'est ce que dirait l'ensemble de la phrase de Paul. Le beau, c'est pas dépendant de ma volonté, donc c'est involontaire. Enfin, je propose cette interprétation absolument pas sanctifiée, pas du tout orthodoxe. Bon. Le beau, serait un phénomène, littéralement un phénomène, quelque chose qui m'advient, qui m'apparaît. Involontaire, voire, pour raccorder à tout ce que j'ai dit dans les séances précédentes sur la perlaboration, etc., un phénomène de mémoire involontaire, mais tout de même un phénomène, de toute façon un phénomène. Je, c'est-à-dire ce qu'il y a de sujet en moi, quand je dis je, hein, c'est ce qu'il y a de sujet en moi, je ne trouverai pas le beau, c'est pas je qui trouve le beau, c'est le beau qui advient à je. C'est un phénomène. Je, c'est-à-dire ce qu'il y a de sujet en moi, ne trouverait pas le beau, mais cependant, le beau, lui, se trouverait pour je, pour moi. Il viendrait à ma rencontre. Il m'arriverait. Le beau serait quelque chose qui n'est pas lié au vouloir humain, mais donc, par conséquent, quelque chose qui est lié à l'involontaire, mais qui arrive involontairement. Un phénomène involontaire. Et dans la mesure où le verbe « trouver » est utilisé par Paul sur le mode négatif, hein, « quant au beau, je ne trouve pas », il serait, par cette modalité négative dans le texte de Paul, par là signifié que le moment phénoménal de rencontre est absent chez l'être seulement volontaire, c'est-à-dire l'être qui s'en tient à son vouloir, qui ne regarde son être au monde qu'en fonction de ses ou de sa volonté, ben celui-là ne risque pas, en effet, de rencontrer le beau. Il serait donc signifié par le négatif du verbe « je ne trouve pas ». Moi qui ai le vouloir à demeure chez moi, je ne trouve pas le beau. Comprenons ça comme peut-être signifiant que le moment phénoménal de rencontre dont j'essaye de vous parler est absent chez l'être seulement volontaire, trop occupé de la puissance actuelle de sa volonté. Celle où il se trouve, situation où il se trouve comme essentiellement muni de cette volonté qui par ailleurs ne suffit pas à ce qu'il fasse bien et ou en tout cas, selon Paul, qui ne l'empêche pas de faire mal. Ce serait en ce sens l'emprise de la volonté, ou ce qui revient au même, le non-abandon à l'involontaire, qui empêcherait d'enregistrer en son fort intérieur, au sujet, ce qui arrive à la rencontre, ou qui, c'est selon... Deuxième hypothèse, non, je vais reprendre ma phrase... En ce sens, ce serait l'emprise de la volonté ou ce qui revient en même le non abandon à la volontaire qui empêcherait d'enregistrer ce qui arrive à la rencontre et par conséquent d'apercevoir le beau. Ou ce serait l'emprise de la volonté ou le non-abandon à l'involontaire qui expliquerait qu'il puisse y avoir déni de l'arrivée phénoménale dont je parle lorsqu'elle a lieu. C'est-à-dire, il y a deux hypothèses. Quoi. Soit la volonté, le vouloir, nous empêche de voir le beau, soit, en fait, on le voit, mais on dénie qu'on l'a vu. Voilà. Et on dit, je ne trouve pas. Alors, il me semble que reste ou resterait à comprendre dans cette hypothèse l'autre verbe présent dans la phrase que j'essaye une dernière fois de commenter, que je vous redis en grec, le katergazestai, hein, kat ergazein, accomplir, dans la traduction que j'ai proposée, mais qu'on peut dire kata ergazein, mettre en œuvre ergazestai, kata le plus loin possible, hein, le plus possible. Ce que signifie dans ce verbe, en grec, le préfixe kata, c'est que la condition du beau rencontrable hors de moi est ou serait d'être une phénoménalité en perpétuelle construction. Puisque, en fait, l'accomplissement du beau n'a jamais lieu, c'est-à-dire on n'en a jamais fini avec le beau. Pourquoi ne pas interpréter ça comme disant, alors, point 1 de ma lecture, le beau, c'est un phénomène qui vient à la rencontre, qu'une certaine façon pour moi d'être omnubilé par le volontarisme m'empêche éventuellement d'apercevoir. Et par ailleurs, serait dit dans le verbe de façon extrêmement concise dans la phrase et dans le verbe de Paul que le beau, en tant qu'il est l'affaire d'un kat ergazestai et pas seulement d'un ergazestai, c'est que ça serait un phénomène rencontrable, hein, un phénomène rencontrable hors de moi, en perpétuelle construction, jamais achevé. Avec le beau, nous n'en aurions jamais fini. Pareille signification fait place à l'idée d'un toujours possible perfectionnement de ce qu'il y a hors de moi. Et donc elle fait place au supplément, à l'amélioration, etc. Pareille interprétation ou pareille signification fait place à l'idée d'un toujours possible perfectionnement de ce qu'il y a hors de moi. Perfectionnement qui, étant donné l'échelle des valeurs établies dans l'ensemble du texte et dont je crois avoir donné la description déjà lors de la séance précédente, perfectionnement qui commence ou commencerait dès lors qu'on excède ou excéderait le bien et même le bien faire. Hein, ça, j'ai parlé de ça la dernière fois, je ne vais pas reprendre, sinon la soirée sera interminable. Hein. Il me semble avoir essayé de vous dire que moi, je lis le texte de Paul comme ça, en disant qu'il y a une espèce de gradation, hein, que le beau, c'est plus que bien, pour le dire vite. Et par conséquent, la construction du beau suppose de dépasser la logique, entre guillemets, ou l'intention, ou peu importe, de bien faire, ou j'allais dire de seulement bien faire. Le perfectionnement, en quoi consisterait la construction du beau incessante? Le perfectionnement, comment se commencerait, dans l'hypothèse que j'essaye de soutenir, dès lors qu'on excède ou excéderait le bien et même le bien faire? S'ouvre ici, à mon sens, étonnamment non relevé dans la tradition du propos paulinien, une idée singulière du mieux faire comme dynamique de travail qui ne se justifie pas du bien, mais d'un mieux que bien. Voilà. C'est cette formule, il me semble, impliquée de façon extrêmement concise dans le texte de Paul, en tout cas pour moi, c'est cette formule, faire mieux que bien. Ça, c'est le beau. Faire mieux que bien, qu'il s'agit pour nous, pour moi, à présent, de comprendre. Qu'est-ce que faire mieux, si ce mieux veut dire mieux que bien? Pour parvenir à cette compréhension, qu'est-ce que veut dire faire mieux, si mieux veut dire mieux que bien? Bon. Pour parvenir à cette compréhension, nous allons devoir peut-être examiner pour commencer cette autre question, mais que j'espère mon propos va faire entendre dans l'ensemble des mots qu'elle contient. Qu'est-ce que faire seulement bien ? Hein ? Si on peut faire mieux que bien, si le mot c'est ça, faire bien c'est faire seulement bien. Voilà. Et je voudrais essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire faire seulement bien, parce que comme ça, peut-être j'arriverai ensuite à comprendre qu'est-ce que ça veut dire faire mieux que seulement bien. Ne pas s'en tenir au bienfait. Tu sais où ? Faire bien, c'est s'occuper de ce qui ne fait pas matière à action. Si je reste dans la zone d'interprétation du texte de Paul que je vous ai proposé, c'était peut-être même pas il y a 15 jours, c'était peut-être il y a un mois. Bon. Faire bien, c'est s'occuper, dans le texte de Paul, il me semble que je peux dire ça, faire bien, c'est s'occuper de ce qui ne fait pas matière à action, c'est ouvrir son temps de faire à ceux dont nul ne saurait se plaindre. Il me semble avoir essayé de montrer ça il y a peut-être deux séances, je ne sais plus si c'était la précédente ou celle d'avant. Quand vous faites le bien à quelqu'un, par exemple, j'avais pris ces deux exemples, s'occuper de son enfant qui pleure ou adresser un geste de tendresse amoureuse à celle ou celui qu'on aime, qui s'en plaindrait ? Voilà. Nul ne saurait se plaindre du bien qu'on lui fait. Et c'est ça que, à mon avis, veut dire Paul. C'est pas matière à action. Voilà. Action au sens où j'avais dit peut-être que l'action chez Paul, c'est l'action au sens juridique, hein, faire action en justice, c'est-à-dire porter plainte. Qui porterait plainte du bien qu'on lui fait ? Bon. C'est pas matière à action. S'occuper de faire bien, c'est s'occuper de quelque chose qui ne fait pas matière à action, c'est ouvrir son temps de faire, à ceux dont nul ne saurait se plaindre. Alors, je vais prendre maintenant un autre exemple que ceux des séances précédentes. De ce qui fonctionne bien, qui se plaindrait ? Si quelque chose fonctionne bien, qui s'en plaindrait ? Hein ? Faire bien, c'est faire quelque chose qui fonctionne bien, et de ça, qui pourrait se plaindre ? La plainte commence, ça c'est la base que j'avais dite aristotélicienne, la partie aristotélicienne de ma base que j'avais énoncée au commencement de cette séance, de cette année de séminaire, la plainte commence quand tel ou tel d'entre nous trouve dans tel ou tel bon fonctionnement, dans tel ou tel fonctionnement jusqu'alors estimé bon, un élément de dysfonctionnement, c'est-à-dire une nuisance ou une injustice. Tant que c'est estimé bien fonctionner, personne s'en plaint. La plainte commence lorsque il a été repéré, il est repéré par tel ou tel d'entre nous qui commence à s'en plaindre, un dysfonctionnement, ça ne fonctionne pas bien. Un dysfonctionnement, c'est-à-dire, je simplifie, soit une nuisance, soit une injustice. C'est-à-dire, c'est pas... Oui, d'accord, ça fonctionne bien, mais ça nuit, dans les propos d'aujourd'hui, mais ça nuit à la planète, hein, donc on s'en plaint. Donc à ce moment-là, le faire bien n'est plus un faire bien, puisqu'on s'en plaint, puisque tel ou tel d'entre nous peut commencer à s'en plaindre. En attendant que pareille plainte advienne, c'est bien. Tant que quelque chose qui est fait, il n'y a pas plainte, c'est bien. En attendant que la plainte advienne, ce que nous faisons, c'est bien. Et nous pouvons même penser que toute entrée en fonction se fait pour le bien et se justifie d'un bien. Alors, il y a la vieille argumentation de Platon, nul n'est méchant volontairement, donc je me range à cette argumentation. Quelle raison aurions-nous de penser que quiconque parmi nous voudrait mettre au monde quelque chose pour le mal ? Peut-être que toute invention, toute mise au monde d'un objet qui n'y était pas déjà, est toujours faite pour le bien. Il s'avère après que peut-être ce qu'on a pensé faire pour le bien, on peut s'en plaindre parce qu'il y a du nuisible et ou de l'injuste là-dedans. Nous pouvons donc penser même que toute entrée en fonction se fait pour le bien et se justifie d'un bien. Du beau, en revanche, même si nous ne pouvons le définir, c'est-à-dire le contenir dans une définition que nous aurions par devers nous et dont nous aurions l'idée ou le savoir, du beau, en revanche, nous ne saurions jamais nous plaindre. Du bien fait, nous pouvons finir par nous plaindre, mais le beau, en tant que c'est plus que bien, serait, par hypothèse, quelque chose dont nous ne saurions jamais nous plaindre. Même si nous ne savons pas ce que c'est que le beau, je peux dire ça. Je peux poser que le beau, même si je ne sais pas ce que c'est, je sais au moins ceci, c'est que s'il existe, jamais on s'en plaindrait. Alors que du bien, c'est une notion plus relative qui peut finir par faire matière à action, c'est-à-dire à plainte, etc., etc. Et c'est peut-être ça que dit Paul. Le beau excède kata ergazestai, hein, c'est-à-dire... Le beau ne saurait par conséquent, s'il s'accomplissait, si jamais il s'accomplissait, être jamais matière à action, à juridiction et ou à sentence. Le beau n'est pas revendicable dans les termes du droit. Le bien, oui. Le bien finit par l'être en tant qu'il voisine avec le mal, potentiellement. Le beau n'est pas revendicable dans les termes du droit. Et même, il se situe dans un champ que ne peuvent atteindre les questions portant sur le nuisible et l'injuste. En revanche, ce qu'il exige de nous, en tant que dynamique dont l'effectuation est toujours possible, c'est que nous ne nous contentions pas de penser en termes de bon fonctionnement. Le beau exige de nous que nous ne nous contentions pas de penser en termes de bon fonctionnement, du bien faire. Il permet, le beau, l'idée de beau, qu'ait lieu entre nous des discussions qui ne sont pas peu ou prou des revendications d'utilité, ou mieux peut-être de convenance, ou de justice. Alors, note de bas de page, il faudrait procéder ici à une critique de l'approche sociologique du goût, qui me semble toujours peu ou prou imprégnée d'une revendication de justice, hein, égalité dans l'accès aux produits de la culture, enfin, vous voyez, ce genre de choses qui politisent, au fond, d'une certaine manière. Et je pense que j'essaye de vous proposer une idée du beau qui ne se situe pas dans ce champ critiquable-là. Le beau permet... Qu'ait lieu entre nous des discussions, mais qui ne sont pas peu ou prou des revendications d'utilité ou de justice. Que les choses soient claires, pour la plupart de nos activités dans le monde, hormis les hostiles et les guerrières, nous n'imaginons pas de faire mal au monde, voire seulement, pour reprendre un vocabulaire que j'avais trouvé en cours de route chez... son nom m'échappe, philosophie de la photographie, Henri Van Lier, que les choses soient claires, pour la plupart de nos activités dans le monde, hormis les hostiles et les guerrières, nous n'imaginons pas de faire mal au monde, voire seulement de l'indexer, même on n'imagine même pas de l'indexer maladroitement, d'y déposer, si vous voulez, des faits de nous, maladroits. Autrement dit, sauf cas de perversion, nous ne mettons pas des choses au monde, nous n'inventons pas pour le mal. Au contraire, c'est toujours pour un bien que nous concevons nos inventions, quand bien même la suite de nos histoires ou de notre histoire avec elles, les inventions, nous conduisent ultérieurement à nous en plaindre. S'il doit s'agir que nous ne nous contentions pas de penser en termes de bon fonctionnement, néanmoins, c'est un fait, nous commençons par là. La beauté est dans l'affaire une tension supplémentaire. Suivant le mouvement des utilités, venant à la suite du mouvement des utilités, dépendant de ce mouvement, donc ça commence comme ça. Hein, la première chose qui vient à l'esprit des humains quant à la question « qu'allons-nous faire de notre génération ?», par exemple, c'est mettre au monde des choses qui ne sont pas déjà. On ne va pas se contenter de vivre dans le monde de nos parents. On va être peu ou prou inventif. Et qu'est-ce qui va orienter cette mise au monde ? Le bien faire. Hein, je fais l'hypothèse que personne ne veut faire mal au monde, hein, ou déposer de mauvaises choses dans le monde. Voilà. On commence par au moins penser que ce qu'on va faire, c'est déposer dans le monde des utilités nouvelles ou renouveler les utilités. Et par conséquent, si le beau est un supplément, si c'est faire mieux que bien, si c'est une tension supplémentaire, alors ça vient à la suite. Hein, c'est pourquoi la fameuse phrase de Sullivan, le verbe, m'intéresse tellement. Hein, form ever follows function. Ça vient... d'abord, il y a les utilités. D'abord, ce qu'il faut, c'est que ça fonctionne et que ça fonctionne bien. Voilà. Donc, le beau suit, vient à la suite des utilités que chaque génération dépose dans le monde. Elle dépend du mouvement. Le beau dépend du mouvement des utilités. Il y trouve les conditions de sa gestation. Il est comme en germe dans le mouvement même des utilités. La beauté trouve donc dans les techniques de l'utile sa matrice. Elle se met à jour, elle s'actualise avec et depuis cette matrice. La beauté se met à jour, alors entendez ça dans tous les sens que ça peut avoir en français, y compris évidemment alors la mise à jour au sens l'actualisation, mais aussi au sens venir au jour, hein, éclore. Voilà. La beauté se met à jour, bon, elle s'actualise avec et depuis la matrice des utilités. J'allais dire, est-ce que je peux en dire plus ? Voilà. Bon, vous me direz en discussion. Car je crois que le moment de conclure approche. J'ai dit ce que je viens de dire, la beauté se met à jour, en pensant à un ensemble de textes qu'il faudrait évidemment lire si le temps de le faire était encore donné dans ce séminaire. Alors, ce sont des textes que j'ai lus pour préparer ce séminaire, dont j'ai espéré réussir à vous parler à un moment ou l'autre, et j'arrive à la conclusion, j'en ai toujours pas parlé, et je sais maintenant qu'il est trop tard, je n'en parlerai pas. Voilà. Sauf pour dire que j'en aurais bien parlé. Voilà. Alors ces textes, cet ensemble de textes que j'ai lus en préparant ce séminaire, sont impliquent les noms de Baudelaire, Charles Baudelaire, William Morris, Louis Sullivan, Frank Lloyd Wright, Walter Gropius, Paul Valéry, Walter Benjamin et Max Beal. Tous ces textes ont pour point commun de faire appel au vocable beau, tous. Parce que quand j'ai commencé le séminaire, je faisais l'hypothèse que la notion était une notion, un mot qui s'était perdu, enfin, qui était devenu finalement, qu'on avait estimé peu fréquentable depuis en gros la deuxième moitié du 18e. Enfin, c'était résiduel, quoi. Ou alors c'était pour se poser des questions, vous savez, quand on n'a pas de questions plus importantes, les questions les plus importantes, ce n'était pas la beauté, c'est les utilités, c'est le profit, c'est le commerce, ce sont les commodités, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que, contrairement à ce que je pensais, beaucoup de gens, à partir de la deuxième moitié du 19e, ont mis le mot « beau » et avec insistance dans leur texte. Je vous ai donné les quelques noms que j'ai fréquentés. Baudelaire, Maurice, Sullivan, Wright, Gropius, Valéry, Benjamin et Beal. Tous ces textes ont pour point commun de faire appel au vocable beau et de le faire dans un contexte susceptible de correspondre à ce que je viens d'appeler mise à jour. Mais tous ces textes aussi font accueil à la modernité, comprise non seulement comme un moment historique, mais encore et même surtout comme un état d'esprit, comme une manière de prendre en compte la poussée récurrente des techniques et des utilités. La modernité, ce n'est pas un moment. On peut dire, il y aurait les pré-modernes, les modernes et les post-modernes. Vous voyez, non. j'entends par modernité, en suivant en cela la définition précise proposée par Baudelaire quand il introduit, je répète ça à chaque fois, le mot dans la langue française, qui n'est donc pas, qui n'existe pas avant, qui n'existe pas au temps de Descartes, par exemple. C'est pour définir un état d'esprit, pas une période de l'histoire, mais un état d'esprit. Bon, alors, il faudrait évidemment que j'en fasse toute une conférence, mais il n'y a pas le temps, il n'y a plus le temps. Hein. Bon, en tout cas, je le dis, qu'est-ce que c'est que la modernité ? Ce n'est pas un moment historique, pas tant que ça, c'est un état d'esprit, une manière de prendre en compte la poussée récurrente des techniques et des utilités, précisément pour dégager de cette poussée, des plus récentes poussées, leur beauté possible. Entreprendre de redéfinir l'esprit de la modernité, c'est préciser ce qui s'est pas. Pardon, entreprendre de redéfinir l'esprit de la modernité, préciser ce qui sépare cet esprit, d'une part au moins, de la pensée des Lumières, est à mon avis à présent une tâche à laquelle nous invite au fond même ceux que nous connaissons aujourd'hui pour leur critique de tout un pan de la pensée moderne. Je pense que redéfinir, repenser la modernité stricto sensu est une tâche à laquelle nous invite au fond même ceux, je vais parler de Bruno Latour, enfin je fais allusion à Bruno Latour et je vais citer Isabelle Stagers dans une seconde, qui sont pourtant connus pour être des critiques. Enfin, alors de la modernité, pas au sens strict que Baudelaire donne au mot, mais au sens qu'a pris le mot, qui fonctionne désormais pour nous comme un équivalent des temps modernes. Et je pense que redéfinir la modernité est une tâche à laquelle même ceux-là, ces penseurs-là, au fond, nous invitent. Par exemple, quand Isabelle Stingers, à la fin de son livre « Civiliser la modernité », il y a un point d'interrogation au bout du titre. Hein, « Civiliser la modernité », point d'interrogation. Troisième partie, chapitre 2, conteste, je cite, « la manière de faire attention propre aux scientifiques qui impose une disjonction entre voix active et passive, entre le sujet qui fait attention et ce à quoi il fait attention. » Quand elle écrit ça, Isabelle Stingers, il me semble que c'est à la possibilité d'un faire ni actif ni passif, d'une voix moyenne qui ne présuppose pas l'opposition sujet-objet, mais qui admet, selon mon langage, quelque chose comme un faire à la rencontre, il me semble que c'est à cela qu'elle fait objectivement appel. En fait, quand elle, dans ce passage de son livre, vous lirez, je suis évidemment beaucoup trop concis, où elle dit, mais il y a un problème du côté des scientifiques, c'est qu'ils ont tendance à disjoindre voix active et voix passive, c'est-à-dire il y a le sujet, il y a l'objet, les sujets sont actifs, les sujets sont passifs, et elle dit, en fait, nous avons besoin d'une voix moyenne, mais le faire à la rencontre que j'essaye de définir me semble être précisément cette voix moyenne. Et je ne pense qu'on ne peut pas penser ce faire à la rencontre sans réévaluer la position des modernes en art, sans redonner aux modernes en art une place que toute une critique récente de la modernité soit leur fait perdre, soit nous fait oublier. Voilà. C'est pourquoi j'ai cité tant de fois Paul Klee dans ce séminaire, parce que lui, il faisait à la rencontre. Voilà. Je pense que d'une certaine manière, les fois où j'ai évoqué Paul Klee dans ce séminaire impliquaient cette formule que je lâche ce soir, hein, d'un faire à la rencontre. Faire comme ça vient, voilà. Est-ce que le peintre est actif ou passif, Klee, quand il peint ? Il est les deux. Voilà. Il fait à la rencontre. Et je pense que la phrase d'Isabelle Stingers, que je viens de citer, elle attend, même si Isabelle Stingers, dans une certaine mesure, ne le sait pas elle-même, ou n'en parle pas, en tout cas pas là, appelle justement que elle ou d'autres se mettent au travail pour définir, réévaluer la situation des modernes en art. Donc je pense qu'elle fait objectivement appel, sans y penser peut-être assez, d'une part au faire tel que soutenu par les modernes en art, d'autre part, elle fait appel à la modernité au sens des modernes en art, qui implique qui ne peut pas ne pas, même elle tient à ça, qui implique l'idée des modernes en art, l'idée de l'humanité propre aux modernes en art, pas à la modernité telle que Latour l'a définie, mais aux modernes en art, stricto sensu, l'idée de l'humanité qui est impliquée là est une idée de l'humanité comme passible du beau, et donc, selon mon raisonnement, de la rencontre. Voilà. Je pense que n'importe quelle époque, y compris la plus industrielle, soit passible du beau, c'est ça que dit Baudelaire, en substance, quand il introduit dans la langue française le mot et la notion de modernité. Et c'est ça que nous avons oublié et que, à mon avis, nous ne pensons pas assez aujourd'hui. Au cœur de l'étude de la modernité à laquelle, par conséquent, j'invite ici, je dirais, les plus jeunes, réside une idée que tout ce séminaire aura, je crois, impliquée. S'il est une position de Paul que ma lecture a tenté de faire valoir, c'est celle qui relativise l'importance de l'action et, par extension, qui relativise l'importance de la politisation des questions humaines. Je suis en train de conclure là, hein, vraiment, pour de bon. S'il y a une position que tout ce séminaire a tenté de faire valoir, c'est celle qui relativise, à mon avis, chez Paul ou depuis lui, l'importance de l'action. Si vous entreprenez de réévaluer l'idée de modernité au sens que j'ai essayé de définir, grosso modo, vous ne pourrez pas ne pas vous interroger sur une pratique du faire et non pas de l'agir. Parce que qu'ils ont fait les modernes en art, ils ont fabriqué des choses. Voilà. Est-ce qu'ils ont fait des actions? C'est quand l'art cesse d'être moderne, c'est quand l'art sort à nouveau de son idée moderne, qu'on se remet à faire, alors appelez ça comme vous voudrez, des performances, des actions, etc., au nom de l'art. Voilà. Mais qu'est-ce qu'il y avait, pour penser l'art chez les modernes, du faire, si j'ose dire, stricto sensu, pas du faire bien, mais du faire plus que bien, mieux que bien, beau. Si je ne suis pas clair, vous me poserez des questions après. Donc il me semble que la position de mon séminaire aura été de relativiser, je me suis dit ça au moment de préparer les notes de conclusion, l'importance de l'action et par extension, puisque c'est un concept politique, action, la politisation des questions humaines. Il y a des questions essentielles qui ne sont pas des questions politiques, s'il faut que je le dise de façon excessive. Dans sa lecture d'Augustin, auquel elle a consacré sa thèse, et de Paul, Hannah Arendt parvient à une conclusion semblable. Il faudrait que je cite ici longuement le passage de « Qu'est-ce que la liberté ?», qui est l'un des chapitres de « La crise de la culture », page 203-205, où elle traite de ce sujet, c'est-à-dire où elle parle à la fois d'Augustin et de Paul. Alors, à défaut de lire les trois pages, qui seraient évidemment beaucoup trop longs, je vais me contenter d'une courte citation qui vient plutôt en conclusion du passage d'Anna Arendt. Elle écrit ceci, donc en ayant Paul et Augustin en tête, c'est-à-dire les deux auteurs base de tout ce séminaire depuis l'année dernière. « La liberté, centre même de la politique telle que les Grecs la comprenaient, fut une idée qui, presque par définition, ne peut entrer dans le cadre de la philosophie grecque. » Donc ce qu'elle dit là, pour le dire, c'est que la notion de liberté n'est pas un concept de la philosophie grecque stricto sensu. Vous ne l'avez pas, pour aller vite, chez Platon ou chez Aristote. Ça ne veut pas dire que la liberté n'est pas l'affaire des Grecs en tant que sujet politique. Ce n'est pas un concept philosophique. Donc la liberté, centre même de la politique telle que les Grecs la comprenaient, fut une idée qui, presque par définition, ne peut entrer dans le cadre de la philosophie grecque. Ce fut seulement quand les premiers chrétiens, et spécialement saint Paul, découvrirent un genre de liberté qui n'avait aucun rapport avec la politique, que le concept de liberté put entrer dans l'histoire de la philosophie. Ce fut seulement quand les premiers chrétiens, et spécialement saint Paul, découvrirent un genre de liberté qui n'avait aucun rapport avec la politique, que le concept de liberté put entrer dans l'histoire de la philosophie. Alors évidemment, je m'arrête sur ce bout de phrase. Un genre de liberté qui n'avait aucun rapport avec la politique. Voilà. Un genre de liberté. Alors ça, je me place sous l'autorité de Hannah Arendt. Un genre de liberté qui n'avait aucun rapport avec la politique. Si cette thèse est juste, si Hannah Arendt a raison, ce qui est évidemment plutôt mon hypothèse, alors il convient de penser que toutes les questions que nous avons à nous poser, nous, les humains, en tant qu'humains, toutes les questions que nous avons à nous poser ne sont pas immédiatement, au moins immédiatement, politiques. Par conséquent, je pense, donc là, c'est plus le parapluie Hannah Arendt, que la politisation trop précoce d'un certain nombre d'affaires humaines revient à ne pas leur laisser le champ de déploiement qu'il faudrait. La politisation trop précoce d'un certain nombre d'affaires ou d'affairements humains revient à ne pas leur laisser le champ de déploiement qu'il faudrait pour que, par exemple, ils conviennent, qu'ils en viennent à convenir, voire à nous mettre à la rencontre du beau. Pourquoi pas ? Mieux que bien. Il ne faut pas politiser trop précocement, peut-être, un certain nombre de questions. Hein, je m'appuie sur l'idée que même Hannah Arendt dit que Paul pensait ça. Un genre de liberté qui n'avait aucun rapport avec la politique. Ma thèse est que, dès les Grecs, le nom générique du champ de déploiement des affaires humaines qu'il ne convient pas de politiser précocement ou trop précocement, le nom générique de ce champ dès les Grecs, c'est oikos, hein, écho. C'est oikos, en tant que oikos, ça n'est pas polis, l'espace de la cité, politique. Polis, c'est l'espace de la politique, la cité. Oikos, ce n'est pas l'espace de la politique chez les Grecs. Dans l'oikos, chez les Grecs, les questions qu'on se pose dans l'oikos ne sont pas des questions politiques. Je pense qu'on peut lire Aristote assez clairement de ce point de vue. Ouais. Oikos, c'est le nom générique du champ dans lequel peuvent se déployer les affaires humaines qui ne sont pas, au moins pas immédiatement, politiques. C'est oikos, en tant qu'oikos, n'est pas polis, mais un espace où se décident et se règlent des partages, des distributions, des jeux de compétences, bref, une éco-nomie, hein, se règle des partages, des distributions, des jeux de compétences, la règle de partage, de distribution de jeux de compétences, c'est pour traduire le nomie, le nomos grec qu'on entend dans éco-nomie. Hein. C'est oikos, donc, le champ de déploiement qu'il ne faut pas politiser trop précocement, selon ma thèse. C'est oikos en tant que oikos est un espace où se décident, se règlent des partages, des distributions, des jeux de compétences, bref, une économie dont la nature et la dynamique ne sont pas a priori politiques, ni même vouées à être politiquement subsumées ou relevées. Ça, c'est ce que j'en viens à penser. Pas même vouées à être politiquement subsumées ou relevées. Je pourrais dire les choses autrement. C'est une parenthèse, c'est pas sur mes notes. Quand on pense que tout est politique, ou tout est politisable, ou tout doit être politiquement subsumé, qui pense ça, sinon les totalitaires en politique? C'est exactement ce que ça veut dire, totalitaire. Que tout est politique, il n'y a plus rien, même pas la vie privée, qui échapperait à la politique. Donc je ne suis pas sur cette position totalitaire qui fait de la politique le final essentiel de toutes les affaires humaines. De certaines, oui. Et toutes, non. Voilà. Bon, j'espère que c'est clair. Donc, en disant ce que je dis, je sais très bien, c'est tout à fait conscient, je sais très bien que je m'écarte d'une pensée fameuse, celle de Hegel, dont Marx n'a pas rien tiré, j'y viens. Je sais très bien que je m'écarte consciemment d'une pensée fameuse, celle de Hegel, qui s'est précisément efforcée de voir dans la politique, au demeurant ramené à l'opération de l'État, la subsomption, la relève est finalement le devenir, sinon l'aboutissement et la solution de toute question humaine. Je pense que l'hégélianisme, enfin, c'est une position en philosophie qui consiste, enfin, c'est la position officielle, enfin, parce que je pense que Hegel, c'est plus compliqué, mais comme toujours, les textes, aucun texte n'est absolument, mais enfin, disons, la position sanctifiée de Hegel, c'est que la solution de toute question humaine réside dans les opérations de l'État. Bon, je sais que je m'écarte de Hegel, par exemple, entre autres, mais de plein d'autres aussi, en disant que je pense plutôt vous suggérer que toutes les questions humaines ne sont ni immédiatement politiques, ni peut-être à penser comme politisables, comme devant être nécessairement politisées. Mais en disant ce que je dis, j'appelle aussi, et je dirais par conséquent, une fois fait le passage par Hegel, j'appelle aussi à une critique de l'économie politique. Je dirais du concept même d'économie politique. Puisque en fait, j'essaye de vous dire qu'il y a peut-être dans oikos et dans économie des affaires humaines qu'il n'est pas judicieux de politiser. En tout cas pas trop vite, voire même peut-être qu'il faut penser comme non politisables. Bon. Donc je suis en train, de fait, non seulement de m'écarter de Hegel, mais de produire une critique de la notion même d'économie politique. Alors je sais bien que l'expression que je viens d'employer, critique de l'économie politique, je suis en train de procéder moi-même à une critique de l'économie politique, je sais très bien que cette phrase est très prétentieuse, puisque critique de l'économie politique est un titre de Marx, comme vous le savez sans doute, qu'il faudrait, à mon avis, relire lui aussi. Pour moi, c'est une tâche. Réhabiliter les modernes en art et relire Marx. Donc, je pense qu'il faudrait le relire, le repenser aussi. Il y aurait, je crois, à examiner le sort dans la critique de l'économie politique que fait Marx, dans le livre de Marx aussi, critique de l'économie politique, il y aurait examiné dans le sort dans cette critique les notions de force productive et de rapport de production susceptibles, selon Marx, d'entraver le développement de ces forces. Est-ce qu'il convient de soutenir toutes ces notions, force productive, développement des forces productives? Est-ce qu'il ne conviendrait pas plutôt de penser en termes de capacité à faire et de simplification des capacités à faire? Ça serait ça ma critique de l'économie politique. Hein? Plutôt que... Parce que finalement, qu'est-ce que dit Marx? Il me semble que... Enfin, je simplifie, bien entendu, mais disons qu'il y a... l'histoire, c'est l'histoire du développement des forces productives. Et régulièrement dans l'histoire, quelque chose que Marx appelle les rapports de production entrave le développement des forces productives, et à ce moment-là, les forces productives font éclater les entraves qui les retiennent, et ça donne des révolutions, etc., et ça accouche d'époques nouvelles qui font que de la société médiévale est sortie la société bourgeoise capitaliste, de laquelle sortira la société socialiste, etc., au fur et à mesure que le développement des forces productives fera exploser les rapports de production qui entravent à un moment donné le développement de ces forces. Ne conviendrait-il pas plutôt que de penser en termes de force productive? Tout le séminaire que j'ai fait s'est efforcé de passer à côté, j'espère que ça s'est entendu, de la notion de force. Donc penser plutôt, alors que je pense bien qu'il faut relire Marx, mais peut-être justement pour interroger la présence et la prégnance de ce concept de force productive et de développement des forces productives dans son lexique. Est-ce qu'il ne conviendrait pas plutôt de penser en termes de capacité à faire et de simplification des capacités? Ce qui ne va pas du côté de ce que Marx ou les marxistes appellent les rapports de production, c'est peut-être justement que ces rapports compliquent la production et qu'il faudrait simplifier. Alors là, note de bas de page que cette fois je vais lire, parce que le mot de simplification, j'en ai parlé il y a deux ou trois séances, je ne sais plus, est évidemment pour moi à entendre dans le contexte où je l'emploie à l'instant, au sens technique, définie précédemment dans le séminaire, et non pas au sens politique néolibéral, hein, quand on dit, quand monsieur le ministre de l'économie dit qu'il faut simplifier pour libérer les démarches entrepreneuriales, qu'est-ce qu'il veut dire en fait? Ça, c'est une position néolibérale qui consiste à dire il faut supprimer un certain nombre de droits sociaux qui font entrave à la rentabilité des investissements. C'est évidemment pas dans ce sens que j'emploie le mot simplification. Mais je le prends dans un sens technique, pas, encore une fois, néolibéral, que je pense avoir défini dans les séances précédentes. La simplification dont je parle est une opération dont le nom indique d'ailleurs bien au passage qu'elle est seconde. Vous pouvez simplifier que quelque chose qui est compliqué. C'est une opération seconde, évidemment pas secondaire. Et c'est une opération technique qui va dans le sens d'une découverte et d'une mise en évidence, comme j'ai essayé de le montrer dans une séance précédente. Comme nous l'avons vu dans cette séance, le résultat que produit un simplifié distingue ou se distingue de la complexité, du foisonnement surproductif, de l'ornementation, etc., etc. Je vous renvoie donc à deux ou trois séances de là. Donc, c'est ma question, quasiment pour finir. Est-ce qu'il ne conviendrait pas que nous pensions plutôt en termes de capacité à faire et de simplification des capacités à faire qu'en termes de force productive, de développement des forces productives et de rapport de production? S'il doit s'agir de se libérer de quelque chose dans le produire, hein, ce qui serait au fond la thèse de Marx, il faut libérer les forces productives. S'il doit s'agir de ça, de se libérer de quelque chose dans le produire, est-ce que ça n'est pas plutôt d'une pensée qui, moyennant de savantes divisions et répartitions des initiatives et des responsabilités dans l'opéré lui-même, légitime de retenir, de capitaliser et en même temps de forclore la dynamique interne du faire. Paradoxalement, l'économie qui aura conduit à l'accumulation de grandes forces productives, c'est-à-dire à l'armement plutôt qu'à l'équipement du monde, paradoxalement, cette économie aura empêché nombre de manières de faire. Elle a, en dernière analyse, contraint tout un pan du travail à proportion inverse de sa propre puissance de rétention. C'est-à-dire, en retenant en puissance des manières de travailler, elle a contraint en proportion le travail lui-même. Au point que c'est devenu un travail, par exemple dans les usines fordiennes ou fordistes, comme vous voudrez, à la chaîne de pure exécution, de gestes parcellaires, etc., qui sont tous sauf des gestations. Je me demande si, s'agissant des questions que j'essaye d'évoquer depuis quelques minutes, nous sommes assez instruits par l'expérience du XXe siècle. Nous devrions l'être, mais le sommes-nous? Cette expérience du XXe siècle devrait nous avoir appris que la réponse à tout ce que, dans le champ de l'oïkos, de l'urbanité ou de la socialité contemporaine, nous vivons mal, parce que cela nous tient dans un registre de menace, cette expérience du XXe siècle devrait nous avoir appris que la réponse à tout ça, que nous vivons mal, nous le vivons mal parce que cela nous tient dans un registre de menace, et que tout ça ne trouve pas nécessairement dans l'accession à l'instance politique du Kratein au pouvoir de commander et de légiférer sa réponse. C'est-à-dire, au fond, il y a toute une expérience du XXe siècle qui a dit ce qu'il faut, d'accord, il y a des choses qui ne vont pas dans le monde. D'accord, l'économie capitaliste, ça développe des postes de travail qui sont qui ont quelque chose d'infernal au sens strict du mot. Il faut que ça change. Il faut que ça change. Pour ça, il faut conquérir le pouvoir politique, le pouvoir d'État. Là, on est chez Hegel et chez Marx. Hein. C'est-à-dire que la solution aux problèmes de l'humanité sont dans la conquête du Kratein, du pouvoir de commander en politique. et par conséquent d'avoir la main sur l'autoriser ou ne pas autoriser, l'accepter ou le ne pas accepter, etc. Nous devrions, il me semble, être instruits par le XXe siècle et penser que, je ne sais pas comment dire ça, le mieux qui puisse arriver à nos affaires, ça ne se trouve pas nécessairement, je ne dis pas que ça se trouve jamais, je dis que ça ne se trouve pas nécessairement dans l'accession à l'instance politique du Kratein, c'est-à-dire au pouvoir de commander et de légiférer, d'organiser par conséquent des actions. Sommes-nous assez attentifs à l'entame économique du pouvoir politique lui-même ? Sommes-nous assez attentifs au fait que tout dans nos vies s'entame dans ce que j'ai appelé du nom générique d'oïkos ? Et que par conséquent, c'est dans l'économie que s'entament non seulement les questions, mais peut-être les réponses aux questions. Et que l'idée que pour que les questions qui se posent dans le champ économique aient une réponse, il faille nécessairement passer par la politique, est une idée que nous devrions être capables de discuter depuis l'expérience du XXe siècle, qui a pensé précisément à l'inverse, que la seule solution, c'était de passer par la politique. Sommes-nous assez attentifs à l'entame économique du pouvoir politique lui-même ? Repérons-nous suffisamment jusque dans les usages quotidiens les modalités et les effets de ce que je viens d'appeler l'entame économique du pouvoir ? Est-ce que nous sommes suffisamment capables d'en désigner la responsabilité ? Tout un pouvoir dont la substance consiste à verrouiller l'opéré, se soutient notamment de nos défauts d'attention dans cette affaire. Apprendre non pas seulement à nous plaindre contre le management de l'opéré, mais aussi à faire imminemment, sans le langage du management de l'opéré, alors c'est apprendre à faire sans imminemment, je dis évidemment à cause d'imminent chez Paul, apprendre à faire imminemment sans le langage et les manières du management, apprendre à faire, c'est pas à se plaindre. On peut se plaindre du management et faire action en justice ou en politique pour dire il nous faudra des lois pour que le management du travail soit plus ce qu'il est. Mais est-ce que nous sommes, quand nous avons cette position, assez attentifs au fait que, à la fois peut-être les questions, mais aussi les réponses, commencent à se situer dans un champ qui n'est pas le champ de la plainte, mais le champ du faire. Voilà. Et que peut-être on pourrait commencer, puisqu'il y a un management qui peut-être verrouille la dynamique du faire, qui retient hors de dynamique le fait de faire, peut-être pourrions-nous, déjà dans l'oïkos, pas dans le champ politique, mais déjà dans l'oïkos, partout par conséquent où nous vivons, tout simplement, faire imminemment, sans le langage et les manières du management qui verrouille la dynamique du faire. Voilà. Il me semble que ça pourrait être une perspective sur laquelle je suis prêt évidemment à discuter autant que vous voudrez, car je crois bien que je suis arrivé à la dernière ligne des notes que j'avais préparées pour la séance de ce soir. Voilà. Donc je vous remercie de toute façon tous, ceux, celles qui sont ici et ceux, celles qui sont au loin, disons, pour votre généreuse patience, séance après séance. Mais discutons, si vous voulez.
Merci.
pardon.
Merci à toi.
Merci.
Alors normalement, on vous entend.
Est-ce que vous m'entendez ?
Oui, moi je t'entends en tout cas.
Merci, merci beaucoup. Je profite toujours, il y a un peu de silence, et puis moi je ne veux pas forcément toujours recommencer le truc, mais là je voulais éviter, puis vu qu'il n'y avait pas trop de choses, je me permets. Donc merci beaucoup de nouveau pour toute la série des 2 ans et ce soir. Moi, en t'écoutant, j'avais pas réalisé qu'on était à la fin de cette saison, mais quand tu l'as dit, je repensais à des choses que tu avais mises en place, même tout au début, comme l'urgence, comme quelque chose qui presse, avec le livre, le raisin, etc. Je me demandais, j'écoutais un petit peu la façon dont tu parlais de champ de déploiement, de champ du faire. Je me demandais cette première mise en place d'une urgence comme quelque chose qui nous presse. Là, tu as parlé de nouveau d'imminence tout à l'heure. Comment est-ce qu'on peut l'imaginer, la concevoir, mettre ces deux choses ensemble? Il y a quelque chose qui nous presse et on a besoin, l'oïkos, tu as défini l'oïkos comme champ de déploiement. Tout à l'heure, tu as parlé de champ du fer. Et donc, c'est à partir de ça que j'essayais de réfléchir à ça et de le mettre ensemble. Et il y a un mot, je crois que tu en as parlé, ou peut-être même qu'on a eu un échange là-dessus, il y a plusieurs séances, mais je ne suis pas sûr et je n'ai pas une très bonne mémoire, c'est la notion d'infrastructure. Pas tellement dans le... Enfin, si, un peu dans le sens marxiste, mais pas seulement, pas pour l'opposer aux superstructures, mais... dans la mesure où des gens comme nos amis de Tarnac, Comité Invisible, etc., ils nous disent aujourd'hui le politique, c'est l'infrastructurel. C'est pas le gouvernement, c'est pas l'État, c'est pas le management, même si tout ça c'est lié à l'infrastructure, mais c'est d'abord du côté de l'infrastructure. Et moi je trouvais très bien, très stimulant, ce que tu disais sur une politisation trop précoce, qui ne laisse justement pas un champ de déploiement. Et je me demandais, dans la situation actuelle où il me semble que ce sont largement des infrastructures qui ont été mises en place, alors par la modernité, pas forcément la modernité artistique dont tu parles, mais quand même par la modernité dont peut parler Latour ou dont parle Stengers peut-être, quelle est l'urgence qui nous presse actuellement et qui compresse nos êtres, nos consciences, etc., mais aussi notre oïkos, en tant qu'il est structuré par des infrastructures, et les infrastructures, c'est à la fois ce qui conditionne le champ du fer dont tu parlais, c'est de l'ordre de la technique, mais il me semble, mais peut-être de nouveau que je surinterprète ou que je détourne ce que tu nous dis, que la réflexion sur la technique, sur les objets, sur la découverte, sur ce qu'on peut faire avec les appareils, etc., ça s'applique pas seulement à l'appareil photo ou à un téléphone, mais ça interagit aussi avec ces choses techniques plus grosses que celles des infrastructures. Et je me demandais si, et là je m'arrête là-dessus, ce que tu nous disais sur le beau faire, pas seulement le faire bien, etc., mais le beau faire et tout ce que tu as dit sur le beau, qui n'est justement pas un ornement, mais qui est une simplification des capacités à faire, il me semble que ça peut avoir une importance que moi j'aimerais bien développer ou que je devrais voir développer, mais peut-être que c'est déjà inscrit dans tes cours ou dans ta pensée, sur justement appliquer aux infrastructures. Cette simplification des capacités à faire, comment ça s'applique, et ce beau, comment ça s'applique, ou ce faire beau aux infrastructures qui structurent le champ du faire. Je ne sais pas si ma question fait sens.
Si, ta question fait sens, mais je pourrais, disons... Ne pas être embarrassé par elle en disant simplement infrastructure, c'est pas mon langage. C'est pas comme ça que j'essaye de penser, parce qu'effectivement il y a infrastructure, il y a superstructure. Vraiment. On peut discuter beaucoup. Qu'est-ce qui est infra, qu'est-ce qui est super. Moi, je penserais plutôt en termes de côte à côte, enfin, dans les espaces. Il y a des espaces qui sont politiques, il y a des espaces qui ne le sont pas. Ils se côtoient, il y a des côtoiements. Bon, après, pour le dire peut-être dans un langage par lequel j'ai conclu, je dirais que la politique est entamée par du non-politique. Comme ça, alors je ne sais pas où se place l'infrastructurel et le superstructurel dans l'affaire, puisque moi, j'ai du mal avec ce langage-là, mais je dirais que la politique est entamée par du non-politique. C'est ça que je veux dire à la fin, quand je dis... c'est ce qui se passe au niveau de l'oïkos qui entame la politique. C'est le fait que dans l'oïkos se produisent des inventions, des opérations techniques. Enfin, ça grouille de toute une série d'opérations qui ne sont pas... D'abord, ni même peut-être essentiellement politique, même si, parce que dans certains cas, il y a finalement matière à s'en plaindre, elles sont politisables, ou une partie d'entre elles sont politisables. Bon. Après, si j'ai bien compris le sens de ta question, je dirais qu'à partir du moment où tel ou tel d'entre nous a été saisi par l'urgence... Peut-être, je vais simplifier, au fond, peut-être il y a deux positions, c'est-à-dire se dire, avant de faire quoi que ce soit, il faut que je gagne à l'esprit qui est maintenant le mien un nombre suffisant de mes contemporains, donc il faut que je fasse de la politique au sens courant du terme, que je ramène sur mes positions suffisamment de gens pour qu'on conquiert le pouvoir, pour qu'on légifère, etc., etc. Il y a une autre position qui me semble correspondre davantage à la, je dirais, à la nature même des choses, qui est de dire que, finalement, la question « qu'est-ce qu'on peut faire ?», elle commence de toute façon par faire. C'est-à-dire par mener des opérations, mais qui ne sont pas des opérations politiques, opérer sur un mode qui n'est pas celui dans lequel, alors j'ai lâché ce mot pas du tout par hasard à la fin de mon propos, dans lequel la dynamique... la dynamique seconde du fer n'est pas verrouillée. Plus on pourra déverrouiller la dynamique du fer, plus ça correspondra, à mon avis, à ce qu'il convient de faire en situation d'urgence. Plus on peut déverrouiller la dynamique du fer. Et ça, on le peut. Je pense que c'est la position de Paul, et même d'ailleurs de beaucoup de ses lecteurs, sur d'infimes petites choses qui ne sont pas glorieuses, avec lesquels on ne va pas rassembler des foules sur la place publique. Voilà. Mais je dis, par exemple, dans la dernière phrase que j'ai prononcée, je pense, ou à peu près, par exemple, on peut déverrouiller le langage économique avec lequel nous sont présentés, le langage économique avec lequel nous sont présentés les objets que nous manipulons tous les jours. Voilà. On n'est pas obligé de parler comme le management. On n'est pas obligé de reprendre toute une série de mots qui sont en fait des mots du capital. On n'est pas obligé. Bon, on peut parler comme soi et non pas comme tout le monde. On peut choisir, je ne sais pas, toutes les questions qui se posent aujourd'hui autour de l'open source, etc. Bon, on voit bien qu'il y a des possibilités techniques qui sont ici verrouillés et là qui le sont en tout cas moins. Chacun d'entre nous peut se positionner, comme on dit, du côté du déverrouillé. Voilà. Est-ce que ça répond ? Voilà. Ce sont pas des actions au sens où le mot serait un mot essentiellement politique, mais ce sont bien des opérations. Voilà. Et ce sont des opérations que nous pouvons mener sans politiser ce que nous sommes en train de faire. Ce qui ne veut pas dire par ailleurs qu'il n'y a pas des questions à politiser. Bien sûr, s'il y a de l'injustice et de la nuisance, il faut politiser. Mais il y a toute une série d'opérations que nous pouvons mener sans attendre, imminemment, sans attendre la politisation de ces opérations. Alors il faudrait faire tout un travail, je ne sais pas si on peut en faire la liste, mais enfin, il y a sûrement matière. On n'aurait pas besoin, je pense, de se parler longtemps pour trouver. Après, est-ce que nous aurons le courage de faire même ces petites opérations ? C'est une toute autre affaire. Mais par hypothèse, dans tout ce séminaire, quiconque a été saisi par l'urgence, là, ce courage.
Merci beaucoup, Pierre Damien.
J'ai deux fois Lyotard en tête, au moins quand je fais cette séance. En effet, quand je parle de plainte, parce que je me souviens de ma lecture du différent, hein, où il me semble qu'il y a une très belle analyse de ce que c'est que porter plainte. Et d'ailleurs, quand j'ai commenté le mot action chez Paul, alors j'ai référé à une institution juridique romaine, parce que ça me semblait plus juste sur le plan, de l'histoire des textes, mais j'avais quand même en tête ce que j'avais lu du différent de Lyotard. Et Lyotard est également présent dans la séance de ce soir avec la notion de rencontre. C'est-à-dire, il arrive quelque chose. C'est par là qu'on avait commencé le séminaire de cette année. Qu'il puisse arriver quelque chose, le terrible serait qu'il n'arrive rien. Voilà. J'ai un tout petit peu, ouvert peut-être l'interprétation de la notion de rencontre avec l'expression que j'espère avoir fait entendre au passage, quelque chose qui nous arrive à la rencontre. Comme on pourrait presque dire en français, suivant le fil de sémantique de cette expression, au hasard. Voilà, ça arrive à la rencontre. C'est-à-dire que le moment, c'est une façon de répondre aussi à la question de Yves à l'instant, le moment où nous pouvons faire quelque chose, si nous acceptons de penser que la moindre opération est dotée d'une dynamique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'attendre d'avoir du capital, des regroupements de forces, etc., pour faire quelque chose, si la moindre opération est dotée d'une dynamique, je veux dire... ce qu'il y a à faire, ça va nous arriver à la rencontre. On n'en manquera pas. Voilà. Avec l'idée aussi que ce qui pourrait guider nos faire, quelle que soit leur taille, ben c'est cette proposition que j'ai faite. Avoir toujours en tête... la perspective de faire mieux que bien. Alors ça, c'est pas Lyotard. Mais quand même, rencontre et plainte, oui. Voilà.
Merci beaucoup d'abord pour cette séance, pour toutes les autres. J'ai une question à poser, oui, qui est... le rapport entre ce que tu as appelé ce soir l'oikos et ce que tu as pu appeler par ailleurs populaire. Je me demandais qu'est-ce que c'est que le rapport entre l'un et l'autre. J'ai l'impression que dans les deux cas, ça peut être des lieux d'entame, justement, peut-être des lieux aussi d'anonymat, enfin je sais pas. Propose ça Et puis, peut-être je peux te laisser déjà répondre à cette question.
Je pense que peuple peut être... Alors bon, c'est compliqué. Je ne suis pas sûr que peuple soit une bonne traduction de démos, hein, démocratie, gouvernement du peuple. Enfin bon, je laisse tomber ces questions qui m'ont occupé en d'autres temps. Mais je pense que je pourrais répondre à ce que tu dis à l'instant, que on pourrait s'entendre pour dire que peuple est le nom global, générique, des habitants de l'Oïkos. Voilà. C'est ce... moi, j'ai évoqué plusieurs fois dans tel ou tel de mes textes la métaphore du grouillement, comme dans les villes, les quartiers, etc. Les gens qui... le grouillement... Alors, c'est pas la foule. C'est pas la foule, parce que précisément la foule, par exemple les foules fascistes, c'est l'immobilisation de la mobilité du peuple. C'est la concentration du peuple en foule, sa condensation, et chacun est serré et on ne bouge plus. Le peuple, c'est le nom de ce qui circule dans les bourgs et les faubourgs. Voilà. Et qui invente au jour le jour, je dirais... tellement qu'on ne sait même pas faire le compte de ça. Voilà. Et bien des choses qui se passent dans l'Oïkos sont fort heureusement, à mon sens, pas politisées. En tout cas, que la justification de quoi qu'on se charge de faire par un motif ou une perspective politique... me semble être une piste que, justement, les leçons du XXe siècle auraient dû nous apprendre à ne pas suivre. Voilà. Bon, est-ce que j'ai répondu sur peuple ?
Oui, tu as répondu. Je trouve qu'il y a quelque chose de, en fait, de paradoxal, mais que tu... Ça conteste pas du tout ce que tu viens de dire, mais je trouve qu'il est... ça qui est difficile à comprendre aussi. Enfin, il y a quelque chose qui me gêne, qui est une représentation de l'Oïkos qui est vraiment le chez-soi. On se dit que l'Oïkos, c'est parfois on le traduit par la maison, etc. Et le peuple, on le voit dans la rue, et qu'il y aurait...
Alors, ça,
j'entends
ça...
bien que c'est pas comme ça qu'on pense, ni l'un ni l'autre. Non.
Ça renvoie au séminaire, même pas celui-là, celui d'avant, sur les espaces privés, publics, sociaux. C'est-à-dire que... Alors, l'oïkos chez les Grecs, en réalité, c'est pas la maison au sens de... Ça aussi, il y a des textes de Lyotard là-dessus. Hein, mais c'est pas la maison au sens restreint d'aujourd'hui, ou la vie privée au sens restreint d'aujourd'hui. C'est... ce sont les lieux économiques dans lesquels, je pense que la définition la plus juste, ça serait de dire dans lesquels sont produites et reproduites les conditions de la vie. Alors c'est la reproduction au sens, fait partie de l'oïkos, les activités grâce aux... Les humains s'unissent pour faire des enfants, les éduquer, s'en occuper, etc. Les nourrir. Donc pour les nourrir, il faut qu'ils produisent, il faut qu'ils consomment, etc. Et appartient également à l'oïkos, au sens large, quelque chose qui est de l'ordre de ce qu'on appellerait la production aujourd'hui. Dans la suite de l'histoire, l'oïkos, ça, Hannah Arendt, le décrit assez bien. L'oïkos grec est au fond divisé en deux instances. La demeure au sens restreint du terme, c'est-à-dire dans lequel on ne fait plus que reproduire, éduquer les enfants, les nourrir, etc. Et puis... le socius, la société, où on produit l'ensemble des biens que, par ailleurs, on ramène à la maison. Mais quand je dis oïkos, en fait, je veux dire là où les familles peuvent déployer leur temps de vie et là où les humains peuvent déployer leur temps de production, la société. Donc à ce moment-là, je pense que la réponse que je te fais à peuple, elle doit à peu près convenir.
J'avais une autre question qui était, enfin, qui me traîne en tête parce que tu as parlé du beau comme mieux que bien, et donc on imagine mal le beau, mais je crois que c'est des questions que tu as déjà évoquées d'ailleurs les années passées, peut-être ça te fait revenir dessus, mais on imagine donc lié au bien, proche du bien, peut-être mieux, mais qui commencerait par là. Mais alors, est-ce que comment est-ce que tu vois, je sais pas, justement, bah, je pensais, puisque tu as parlé de Baudelaire aux fleurs du mal, et donc à la question du mal, alors bon, toi tu as parlé plutôt du nuisible, peut-être pour esquiver, peut-être pour éviter justement la notion de mal, même si celle de bien tu t'y intéresses. Bah voilà, qu'est-ce que tu fais du mal, ou sinon d'un nuisible? D'un nuisible beau, est-ce qu'un nuisible peut être beau à ton avis, ou alors est-ce que ça vient seulement en supplément du bien et pas en supplément du mal, sinon du nuisible?
Est-ce qu'il peut y avoir un beau nuisible?
Oui.
Alors, il me semble que j'ai dit au passage ce soir une chose que je peux dire du beau, même si je ne sais pas ce que c'est que nous ne pourrions pas nous en plaindre. Nous ne pouvons pas nous en plaindre. Et donc, dans la mesure où l'objet de la plainte, c'est un mal qu'on m'a fait ou que je ressens comme tel, peu importe s'il est objectivement un mal, etc., l'objet de la plainte, c'est le mal. Et l'objet de l'action, c'est toujours un mal. C'est-à-dire, en fait, ce qu'on veut, c'est supprimer les injustices, les nuisances, etc. Mais, en fait, est-ce que pour autant, ce qu'on va faire... ça sera jamais nuisible et jamais mal, qui peut le dire? Le beau est une exigence supplémentaire. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose dont on pourrait, comment dire, mettre dans la déduction. Ça se déduit pas du bien. Voilà. C'est une exigence supplémentaire. Et si on ramène, évidemment, c'est pas à ça que pensait Paul, mais les concepts, l'espèce de hiérarchie de concepts qu'il nous propose. Donc c'est le passage peut-être trop rapide de mon exposé de ce soir, dans lequel je dis finalement le bien, c'est ce dont on se plaint pas. Et bon, là, je suis encore chez Paul, et la phrase d'après, elle est plus chez Paul, elle est à partir de ce que je peux penser de Pully. Si ça fonctionne bien, qui s'en plaindrait? Tant que ça fonctionne bien, qui s'en plaindrait? Alors, quand je dis des choses comme ça, je pense à cet exemple très simple que j'ai maintes fois pris, qui est celui de l'automobile, où on pourrait prendre même les quand l'automobile est arrivé dans le monde, ça a été estimé comme un objet qui allait libérer, c'était un bon objet. Il s'avère, au bout d'un certain temps, que c'est plutôt un objet considéré désormais comme nuisible. En tout cas, qu'un certain nombre d'entre nous, dont un certain nombre d'entre nous, à tort ou raison, mais de toute façon, de fait, se plaignent politiquement en disant « faut restreindre la circulation des voitures en ville », enfin, etc. Donc c'est devenu un mauvais objet. Mais c'était d'abord un bon objet, fonctionnant bien, et il fonctionne d'ailleurs toujours bien en tant que fonctionnement, mais c'est devenu un mauvais objet. Bon, alors ces questions, ça vient incessamment entre le faire bien, le mettre au monde des objets qui fonctionnent bien et puis qui finalement non, dysfonctionnent d'une manière ou d'une autre, etc. Donc on va politiser, discuter. Il y a une exigence supplémentaire. Voilà, c'est un gap, s'il faut parler un langage moderne, un saut qualitatif, qui consiste à dire... sauf si on tient l'humanité dans le champ du volontarisme, ce qui serait la position paulinienne, reprise par Augusta, reprise par Hannah Arendt, etc. Sauf si on tient l'humanité dans le champ du volontarisme, cette humanité est susceptible de rencontrer dans le monde où elle se balade et dans les fers auxquels elle s'adonne, quelque chose de supplémentaire au bien qui pourrait s'appeler le beau. Bien faire un bâtiment gothique, c'est empiler des pierres taillées d'une certaine manière, avec des contreforts, une voûte en croisée d'ogives, et que ça tienne. Voilà. il se trouve que dans certains cas, en plus, c'est beau. Et on n'a que faire en termes de plainte, de qui se plaindrait de la beauté gothique. Et l'hypothèse des modernes en art, c'est de dire ce qui a été possible dans le cas historique que je viens de prendre est encore possible dans la société industrielle, à condition de se donner une exigence supplémentaire au bien fonctionner, au bien faire.
Quant au beau, tu as donné une liste de noms, Baudelaire, Maurice, Van Gogh, Valéry, Benjamin, Malvin, et tu viens de rappeler que tu ne pouvais pas dire grand-chose ou qu'on ne pouvait pas dire grand-chose sur le beau. Pour la majorité de ces personnes.
J'ai dit qu'on ne pouvait pas dire grand-chose sur le beau. Non, mais peut-être que dans la que je si j'ai dit ça si j'ai dit ça je
on va savoir ce que c'est.
Voilà.
Et alors c'est une question ignorante au fond. Moi j'ignore un peu ce que Paul Valéry a pu dire sur le beau.
Ah ben là je suis pas capable de te répondre parce que j'ai pas révisé avant de venir. Et en plus, j'arrive à Paul Valéry, je dirais pas de moi-même. Il est cité longuement par Benjamin. Et justement, Benjamin choisit une citation dans laquelle le mot beau apparaît. Mais en gros, ce qu'ils disent tous, ceux-là, c'est que, une beauté moderne est possible. Autrement dit, dans les conditions de déploiement technique de la société industrielle, le beau est toujours possible. Le beau n'est pas une notion d'autrefois, et il est toujours possible. C'est toujours une exigence. Voilà. Donc, voilà, au fond, je ne sais pas pourquoi je le dis premièrement. Ils disent ça. Le beau est toujours une exigence, il est toujours possible. Et il est possible comme exigence. Voilà. Sous condition. Par exemple, ça dirait Baudelaire de ne pas de s'écarter, d'accepter un certain écart. Enfin, je pense qu'ils disent tous à peu près ça, c'est-à-dire que la possibilité d'une beauté moderne suppose qu'on accepte d'écarter le faire œuvre de ses modalités antérieures. Mais en même temps, je crois qu'ils disent tous que c'est une exigence supplémentaire, comme j'essaie de le dire. Même Paul Valéry, y compris Paul Valéry, qui était, je veux dire, Benjamin l'a beaucoup lu, il le cite souvent. Hein.
Et la beauté aujourd'hui, ce serait quoi?
Je ne sais pas.
Mais il y a quand même une impression, moi non plus, mais ça correspond à quoi? Parce que nécessairement, si vous ne savez pas, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas nommer.
La beauté a une chance d'arriver si un certain nombre d'entre nous s'adonne à cette exigence faire mieux que bien. Si aucun d'entre nous s'adonne à cette exigence faire mieux que bien, alors il y a de grandes chances que la beauté moderne n'arrive pas.
Eh bien, c'est quoi alors? C'est une injonction.
Alors le bien, ça on peut discuter longuement. Dans le contexte de mon exposé de ce soir, je l'ai rapporté à un bien faire qui serait défini par un bien fonctionner. Un objet qui fonctionne bien, qu'on peut mettre en fonction et qui, dans sa mise en fonction, fonctionne bien. On peut prendre une question simple. Qu'est-ce qu'un ordinateur bien fait? C'est un ordinateur qui... Oui, ça serait intéressant, hein, d'ailleurs. C'est un ordinateur qui répond à sa fonction. Alors, c'est devenu compliqué dans les objets. On peut dire qu'est-ce que c'est qu'un téléphone portable bien fait, parce que c'est une double fonction, maintenant, ces objets-là. C'est la fonction de nous servir, mais aussi de servir toute une industrie de la donnée, etc. C'est compliqué. Mais bon, un ordinateur bien fait, mettons, un ordinateur qui fonctionne bien, etc. Et un bel ordinateur. Alors, cette question est saugrenue ou pas? C'est-à-dire, si vous êtes complètement pris dans la logique des bons fonctionnements, vous allez dire que cette question est saugrenue. C'est une question saugrenue. Là, si on pense comme saugrenu la moindre question sur le moindre objet concernant la beauté, alors on est mal parti, d'après moi, parce que justement il nous manque une exigence. Et je vous retournerai donc, pas vous seulement personnellement, je veux dire, je retournerai volontiers la question en disant, mais qu'est-ce que c'est un bel objet d'aujourd'hui, je retourne la question, je veux dire, si on trouve cette question incongrue, eh bien, on est voué à, premièrement, être dans un monde dont la seule qualité serait de fonctionner, et d'autre part, dans le meilleur des cas, de pouvoir éventuellement s'en plaindre si le champ politique reste ouvert. Mais si le champ politique ne reste pas ouvert, c'est possible que les très grosses entreprises qui entament la politique aujourd'hui, selon ma formule, verrouillent l'accès au champ politique. C'est possible. La puissance d'un certain nombre de grandes entreprises américaines, la puissance économique et même financière, dépasse celle de, nombre, de nombreux États dans le monde. Il est possible que l'entame économique de la vie finisse par verrouiller non seulement les objets, mais y compris l'accès au champ politique lui-même. Donc ça n'est pas souhaitable. Mais paradoxalement, pour que ça n'ait pas lieu, ce verrouillage-là, qu'on puisse plus se plaindre par conséquent des fonctionnements économiques, il faut peut-être que le plus que nous pourrons, nous donnions comme exigence dans nos vies quotidiennes de faire plus que bien. Ne pas s'arrêter au bon fonctionnement.
Est-ce que France ce serait plus que bien? Et donc peut-être beau.
Dans la mesure où verrouiller, j'ai beaucoup réfléchi à relâcher ce mot ce soir. J'ai dit verrouiller, déverrouiller, verrouiller, etc. Dans la mesure où il y aurait un enjeu, une façon de métaphoriser ce que j'essaye de dire avec ce mot-là, verrou, verrouillage, verrouillement. Enfin, oui. Et si la beauté consiste, si l'exigence supplémentaire que j'appelle beauté ou souci du beau consiste à ne peut passer que par un déverrouillage des entames économiques, ne peut passer que par la conviction qu'il y a de la dynamique dans le faire, etc., dans le faire même à petite échelle. Oui, dans ce cas-là, la franchise, si on verrouille, ça veut dire qu'il y a un intérieur qui n'est pas accessible. Puisque c'est verrouillé. Il y a quelque chose qui n'est pas accessible. Voilà. Et s'il s'agit de déverrouiller, alors la franchise, la découverte, c'est un déverrouillage. Ce qui interdit la beauté ou le souci de la beauté, c'est pas l'économie en elle-même, c'est pas la distribution, les partages des compétences, des activités, etc. Ce qui interdit la beauté ou le souci de la beauté, c'est pas l'économie en elle-même, c'est ce que j'ai appelé au début de la séance le pouvoir économique. Qui réserve la disposition du faire, qui se réserve de disposer du faire, de faire ou de ne pas faire, etc. etc. C'est là que je mets le problème. Je pense que la grande leçon de ceux qui m'auront tellement fait penser, dont j'ai donné les noms, bien qu'ils ne soient pas inscrits dans la liste prestigieuse des grands philosophes, mais qui ont tellement donné à penser. Voilà. Mais je pense que c'est ça qu'ils ont non seulement dit, mais fait. Ils ont montré par le fait qu'on pouvait avoir une exigence supplémentaire quand on entreprend de faire quelque chose, et on ne peut pas entreprendre de faire quelque chose sans mobiliser peu ou prou des relations économiques, des rapports économiques, enfin appelez ça comme vous voudrez. Voilà. Mais ils ont montré par le fait qu'on pouvait avoir une exigence supplémentaire, on peut dire des exigences esthétiques, des exigences de forme, des exigences de beauté. Ça ne veut pas dire que ce qu'ils ont fait, c'est effectivement beau, ça ne veut pas dire que tout le monde trouve ça beau, etc. Ils ont une exigence supplémentaire et ils ont montré que c'était faisable. Voilà. Mais on ne peut pas montrer que c'est faisable si on n'a pas, comment dire, de la pensée pour ça, hein, de l'exigence pour ça. Et si on se dit, ce qui compte essentiellement pour les humains, c'est de bien faire, c'est de faire des objets qui fonctionnent bien, utiles, utilisables, etc. etc. Évidemment, dans ce cas-là, l'exigence, le souci de la beauté est absent et on n'aura pas de mal à montrer qu'il n'y a pas d'économie du beau. Voilà. De fait, il n'y en a pas. Ça ne veut pas dire qu'elle est impossible.
Moi, j'avais une question. Je ne sais pas si ça va dans le sens de ton raisonnement, mais tu évoquais la possibilité alors, je ne sais plus quel est le mot que tu as employé, je ne suis pas sûre que ce soit le mot d'instance politique, mais que les lieux du débat politique soient verrouillés. Et est-ce que, dans ce cas-là, au fond, il nous resterait le beau? Et est-ce que, d'une certaine façon, continuer à faire beau, ça pourrait être une forme indirecte de résistance?
Oui.
Je pense à un certain nombre de peintres qui n'ont pas fait autre chose que de continuer à peindre pendant la Seconde Guerre mondiale ou dans ces années-là.
Oui. Mais ça a toujours été une question pour moi. Comment se fait-il que des gens... on pourrait prendre plusieurs exemples dans le champ de la peinture, Kandinsky, Paul Klee, dans le champ de la musique, Schoenberg, qui étaient des gens, pour parler vite, dont on pourrait dire que la suite de l'histoire, on peut discuter telle ou telle prise de position de Kandinsky à un moment donné, mais enfin, grosso modo, la suite de l'histoire, on pourrait, pour parler vite, ne leur aurait pas donné tort politiquement. Voilà. Et pourtant, ils n'ont rien trouvé de plus urgent à faire, en effet, même en temps de guerre, que de continuer à peindre ou à écrire, etc. Il y a peut-être une dimension de résistance à l'opérer, au fait de faire, de prendre du temps pour ça.
J'ai une question aussi.
Oui. Alors, je crois que j'ai besoin que vous mettiez un peu plus de son, s'il vous plaît.
J'ai une question par rapport à Reinhard Benham, qui est un élève de Nicolaus Kelsinger, qui a écrit un texte sur l'esthétique du jetable. Et donc, lui, toute la thèse qu'il développe, c'est les objets pour lui qui sont beaux, sont des objets qui se font pour fonctionner temporairement ou mal, de sorte à pousser les consommateurs à les racheter. Donc, dans les années pop, les années 50 et tout ça. Et je vais vous demander comment en fait ça pourrait s'articuler à toute la conception du beau que vous avez développée là, et est-ce que ça articule en fait
Alors est-ce que j'ai bien compris, vous me demandez de pousser la pensée de Reinhard Benham au-delà de ce qu'il a dit lui-même? Et est-ce que j'ai bien entendu que vous évoquiez des pratiques de recyclage
Non, justement pas du tout. Ça qui est intéressant dans sa position, c'est qu'il défend une esthétique du jetable. C'est-à-dire que pour lui, les objets beaux sont des objets qui fonctionnent mal ou pas assez longtemps. Et pour pousser les consommateurs à les racheter et ainsi rentrer dans cette dynamique de la société de consommation américaine des années 50.
Donc le beau, comme c'est l'argument aussi de... son nom m'échappe, la laideur, Raymond Loewy, la laideur se vend mal, c'est ça?
Oui, il est un peu dans cette...
Mais, bon, il faudrait regarder les textes de près, hein. Là, vous les avez en tête, c'est pas mon cas, ceux que vous évoquez, en tout cas, je les ai pas en tête, pas immédiatement. Mais moi, bon, je peux plus, peut-être davantage parler de Loewy, parce que j'ai davantage son texte en tête à l'instant. Je ne suis pas complètement contre, moi, les positions de Louis, pour le dire simplement, et ça correspondrait à ce que je viens de vous dire, à savoir, il n'y a pas de contradiction économique a priori entre, le développement, l'existence d'activités économiques et le fait qu'elles pourraient être polarisées par quelque chose qui serait la beauté. J'ai pas d'autre chose à répondre ce soir que vous suggérer de réfléchir qu'est-ce que ça veut dire cette expression faire mieux que bien. Et la même question en fait, qu'est-ce que ça veut dire faire seulement bien, voilà. Mais en réalité, dans les arguments que vous évoquez, il s'agit seulement de bien faire pour que ça se vende. Moi, j'essaye de vous parler d'autre chose. De faire quelque chose qui est supplémentaire à ce genre de justification. J'ai dû dire quelque part ce soir, à un moment donné, enfin mon ordinateur s'est éteint, mais de toute façon j'arriverai pas à retrouver le passage exact, mais j'ai dû dire quand même quelque chose, que la question du beau, enfin, je pars pour dire ça d'une lecture franchement... pas orthodoxe de Paul, enfin difficile, j'ai passé du temps. Mais bon, je suis arrivé. J'ai dû dire quelque chose comme ça, c'est que le registre du beau, même si on ne sait pas ce que c'est, il y a une chose qu'on sait, c'est que ça ne se situe pas dans le champ des utilités au sens courant du terme, c'est-à-dire de ceux dont on peut finalement, le cas échéant, se plaindre. Alors que tous les raisonnements, je pense que le type de raisonnement que vous évoquez dans votre remarque sont des raisonnements qui consistent à dire il y a une utilité du beau. Voilà. Alors oui, il y a une utilité du beau si vous travaillez le mot utile, comme il m'est arrivé de le proposer, de rappeler que, parce que ça, tout ça, vous cherchez d'où vient ce mot, à partir de quand il est employé, suremployé, dans quel contexte. Alors ça, c'est une soirée à laquelle vous avez échappé, que j'ai biffé. En me disant non, c'est trop, mais à un moment donné, j'avais pris des notes pour ça, de lire comment dans l'encyclopédie Diderot et d'Alembert, le mot beau est séparé du mot utile, et avec quel mot le mot utile voisine dans cette encyclopédie, il voisine systématiquement avec avantage et profit. Voilà. Et ben, c'est intéressant. Hein. Or, il y a une pensée de l'utile. Si savoir qu'est-ce que ce mot utile a traduit, par exemple, utile, c'est un mot latin, utilis. Mais si on veut le dire dans le vieux grec, comment on dira ? Ben, on ne dit pas. On dit tosumferon, comme on le trouve dans le texte d'Aristote, par exemple, qui se traduit par le convenant. Etc. Bon, bref, je synthétise ma réponse. Je pense qu'il faut discuter aussi de ce que utile veut dire et de la dissociation qui, à un moment donné, est arrivée dans la pensée entre le registre du beau et le registre de l'utile. On peut dire l'utile, c'est ce qui peut être, voilà. C'est pas nécessairement ce qui est. L'utile, c'est pas ce qui est nécessaire. Donc l'utile, c'est pas ce qui est nécessairement. C'est ce qui peut être, voilà. Dans ce cas-là, le beau est utile. Le beau peut être. On peut toujours poser que le beau peut être. Voilà. Maintenant, si on prend l'utile au sens progressiste entre guillemets des Lumières et qu'on veut dire en fait dire que quelque chose est utile, ça veut dire que c'est profitable ou que c'est avantageux, puisque c'est comme ça que le mot est employé dans l'encyclopédie. Alors à ce moment-là, non, le beau n'est pas utile parce qu'il n'est pas profitable et avantageux. On n'en retire rien. Vous ne retirez rien pour vous du fait que la cathédrale gothique est belle. Ça vous fait pas profiter, ça ne vous avantage pas, etc. Voilà. Donc dans ce cas-là, si utile veut dire profitable, avantageux, alors le beau ne l'est pas. Mais si utile veut dire ce qui peut être, alors oui, le beau est utile. Mais ceux dont vous parlez, je pense que leur position consiste à justifier l'utilisabilité, j'invente le mot, du beau. Au sens, c'est profitable, c'est avantageux, etc.
J'ai une remarque à faire. Merci encore, Pierre Damien, pour cette séance. J'essaie une formule, mais moi j'ai un peu entendu aussi des choses comme ça, de type faire mieux ça fait du bien.
Enfin, faire mieux ?
Faire mieux ça fait du bien, mais au sens où
ah non.
J'ai l'impression que trop de politique, trop de pensée, en tout cas dans mon travail de designer, me perturbe, ou en tout cas je ne suis pas tranquille d'esprit parce que comment dire, demander à faire aussi des actes politiques en faisant du design, à préfigurer enfin, le bien que ça peut faire en fait aux autres. Et du coup, j'entendais aussi en fait peut-être se préserver de l'acte politique, du besoin de penser le bien que ça peut faire aux autres. Et en fait, ça, j'essaie cette formule parce que ça fait du bien aussi finalement de juste faire sans presque penser, quoi, sans politique, sans...
Oui. Oui.
La séance d'avant, enfin, le cycle d'avant, c'est... Dans mes souvenirs, tu critiquais aussi le fait qu'il y ait trop de pensées, quoi, trop de concepts, que ça renonce, mais la souvenir, c'était ça que j'avais retenu. Est-ce que c'est plutôt juste cette façon de comprendre ce que tu dirais de ça?
Ben, je ne sais pas, là encore, si je comprends bien ce que tu dis, mais enfin, ce qui me vient à l'esprit, c'est de dire que ce que j'essaye de soutenir, c'est que la justification du faire n'est pas nécessairement d'ordre moral et politique, le bien. Pas nécessairement. Ça peut l'être, bien entendu. Et ensuite, après, quel est le genre de faire ? Donc je pense que dès lors qu'on justifie le faire par le bien, on est en fait dans le registre de l'agir. C'est une action, à ce moment, parce que c'est pour le bien, etc. C'est pour un bien qui peut éventuellement être discuté par d'autres, etc. Bon, donc on est dans le registre de l'agir et on laisse de côté quelque chose pourquoi je ne vois pas d'autre mot que construire. Hein, des constructions, et que peut-être quand les humains construisent, ils ne se posent pas des questions politiques. Voilà. Qu'ils construisent pour le bien, il me semble que ce n'est même pas une question. Ça va de soi, ce que j'ai dit à un moment, nul n'est méchant volontairement. Qui envisagerait de mettre au monde quelque chose pour le mal, à part les pervers? Voilà. Bon, c'est déjà quand même un problème. Mais autrement... Et on peut avoir une exigence supplémentaire, donc on construit parce que j'en sais rien, ou parce qu'on a envie, parce qu'on veut faire du bien à quelqu'un. Des choses saines. Alors oui, et puis il peut y avoir donc une question à ne pas oublier, une affaire à ne pas oublier, une exigence supplémentaire, je ne sais pas comment dire les choses autrement, dont je ne pense pas qu'on puisse jamais lui trouver une justification ou un champ de discussion politique. Le beau n'est pas discutable politiquement. Et j'ai dit aussi que ce n'était pas une affaire de droit, de législation. On a connu des régimes qui ont fait du beau une affaire de législation. Et ça n'a pas spécialement été intéressant. Au fond, ce que j'essaye de dire, c'est que c'est peut-être enfin, intéressant, en tout cas, ça vaut le coup que nous pensions à nous justifier. C'est un mot de Paul, alors on a pu traduire les justes. Bon, le moment de la justification qui serait pour lui la fin du monde, hein, le moment où on fait les comptes. Voilà. La justification, la fin de la vie, le moment où on fait les comptes, la justification. Qu'est-ce qui justifie, qu'est-ce qui nous justifie? Qu'est-ce qui justifie ce que nous faisons? Voilà. Et ça peut être... le bien, le juste, le pas nuisible. Mais il peut y avoir quelque chose qui justifie ce que nous faisons, qui soit aucune de ces catégories, finalement, morales et politiques, finalement discutables, etc. Et dans ce cas-là, je dis que ce qui justifie ce que nous faisons, ça sera de faire beau. Pas seulement bien, mais je ne sais pas si j'ai répondu... Maintenant, est-ce qu'on est embauché pour ça par ceux qui ont le pouvoir économique? La réponse est évidemment non, puisque le pouvoir économique, si j'ai raison dans mon analyse, consiste à exclure la dynamique supplémentaire. J'ai essayé de dire ça ce soir pour commencer. La dynamique du supplément, elle est exclue par le fait qu'on soit sous la menace d'une décision qui dit « je t'embauche ou je t'embauche pas ».
En tant que ce pouvoir-là essaie de geler les tâches secondes qui
seraient possibles. Il gèle, comme tu dis, les tâches secondes, pourtant pas secondaires, il gèle les tâches secondes, et dans la mesure où le beau est une exigence supplémentaire, c'est une tâche seconde. C'est logique ce que je dis quand même.
Moi j'avais une question, oui. C'est une question que je me pose du coup après vous avoir écouté. Je comprends peut-être pas très bien, mais que le séminaire conclut à l'idée que le beau arrive avec le faire. Et que moi je me suis notée comme ça, on pourrait presque dire que le beau est dans le faire. Ça m'invite à penser comme ça, mais je me dis, il y a aussi des choses comme par exemple des architectures qui sont belles et qui pourtant se sont fabriquées sur un mode où a priori le faire est absent tel que vous avez pu en parler dans les séances précédentes, dans le sens où c'est vraiment un projet qui est ensuite exécuté par toute une division assez hiérarchique du travail. Alors, est-ce que du coup je comprends mal ce lien-là entre beau et faire? Ou bien alors, est-ce que en réalité, c'est pas si simple que ça? Et même dans un schéma de conception-réalisation qui peut sembler très verrouillé ou fermé, il y a quand même du faire en fait.
Puisqu'on peut dire tu penses à quoi?
Par exemple, sur un chantier ou d'un projet architectural. Il y a tout un tas de personnes qui sont a priori dans l'exécution. On leur demande juste de réaliser une tâche très précise et de ne pas engager quelque chose qui pourrait aller du côté du faire. Alors, il y a ça, mais... Ou alors, j'ai l'impression qu'on pourrait aussi essayer de voir les choses en disant il y a toujours du faire, même dans la chose qui a l'air la plus... dominé ou quoi?
En fait, il faudrait qu'il y ait une suite au séminaire dans laquelle je ne parlerai pas. Et c'est vous qui amèneriez toutes les petites objections et il faudrait qu'on les examine une par une. Parce que là, par exemple, en effet, il faudrait regarder dans le détail ce dont nous sommes en train de parler. Il me vient juste une espèce de comparaison qui consiste à dire... Enfin, j'ai un problème depuis longtemps avec la direction d'orchestre. Voilà. Et c'est-à-dire... alors, est-ce que c'est du grand art d'arriver à fondre dans l'unisson, je ne sais pas combien il y a de personnes dans un grand orchestre, et qu'on n'entende pas tel ou tel violoncelliste ou tel et tel violoniste, etc., que ça soit l'unisson. Donc, il y a des... J'avais épinglé ce genre de texte, ce genre de position... dans le petit livre que j'avais fait il y a je ne sais plus combien de temps maintenant, Commencer à deux, où il y a une critique de Wagner et justement de la notion d'unisson, hein, la direction d'orchestre. Peut-être que je préfère, par rapport à ce que je dis, les musiques dans lesquelles on entend les apports de chacun. De ce point de vue-là, les prises de son dont on est aujourd'hui capable dans les studios d'enregistrement des musiques sont extrêmement intéressantes parce qu'elles détaillent les lieux de l'orchestre et les instrumentistes, ce que dans les prises de son des années 50, on n'a pas. Elles font magma, elles font... Donc là, on va vers le détail. Ben ça, c'est intéressant. Et ça pourrait convenir à ce que je suis en train de dire. En même temps, c'est une exigence supplémentaire. Hein. C'est vrai qu'on a poussé la capacité de travail des studios pour arriver à ça. On a poussé la technique pour arriver à ça. Après, sur les chantiers de production, il faudrait regarder précisément, cas par cas. Je pense que Gropius est quelqu'un qui a pensé ça, la réorganisation des chantiers. Peut-être qu'on pourrait dire que dans certains cas, les opérations machinales peuvent être remises à des machines, que le problème, c'est quand des opérations machinales sont opérées par des humains qui ne sont pas des machines. Voilà. Et qu'en effet, peut-être que la construction de quoi que ce soit implique à un moment donné qu'il y ait une opération machinale, mais n'implique pas nécessairement que cette opération machinale soit opérée par des humains réduits à l'état de machine. Est-ce que c'est une façon de répondre ? Globalement, il me semble que oui.
Il me semble qu'il dit que le courageux, c'est pas seulement celui qui n'a plus peur, ou qui celui qui n'a pas peur, ou qui ne craint pas, ou... c'est celui qui vit avec ça, et qui fait ce qu'il fait parce que c'est bon.
Aristote, il n'est pas mauvais, hein. Enfin, pas toujours, en tout cas.
Oui, oui. Non, mais en fait, parce que c'est aussi la conclusion ce soir... Je ne sais pas trop pourquoi, mais par rapport à cette idée du bien quand même, du beau qui est au-delà, enfin, qui est encore plus loin que le bien, enfin, c'est quelque chose. Il me semble que chez Platon aussi, il y a un peu cette idée-là.
Oui.
Alors, en fait, le beau, ça passe par le bien, mais ça va plus loin encore que le bien. Mais l'idée du courage. Enfin,
cela dit, cela pense dans une époque de la pensée où la fameuse phrase grecque kalos kagatos, hein, bel et bien, n'est pas morte. Et c'est après qu'il se passe quelque chose où ça se sépare. Et non, nous, on est plutôt des Romains. On est plutôt des héritiers de ce point de vue-là, en tout cas. Pour ce qui concerne le courage, moi, je proposais. Enfin, une double définition qui est probablement la même. Alors, la phrase que je vais dire peut être ambiguë, mais bon, faire quand même. Alors, pour dire, c'est la définition de pas du courageux, mais de l'obstiné que je dis là. Non, ben, celui qui fait quand même, hein, de toute façon, je lâche pas. Je... Faire quand même, c'est-à-dire, pour moi, c'était la situation d'Ulysse qui, quand même, continue son voyage malgré toutes les épreuves. Faire quand même. Et on peut ajouter un codicille à cette proposition, qui serait d'ailleurs du coup plus qui la rendrait plus juste. On s'est dit, faire quand bien même on n'a pas tout ce qu'il faudrait. Donc soit vous pouvez dire, avant de faire, j'attends d'avoir tout ce qu'il faut pour faire. Et ça, c'est pas courageux, c'est juste avoir un sens de la prévision. Et je pense qu'il y a un courage de faire qui consiste à faire quand bien même on n'a pas tout ce qu'il faudrait pour faire. Le bricoleur, par exemple, serait un peu de ce côté-là, il me semble. Faire quand bien même on n'a pas tout ce qu'il faudrait. C'est-à-dire qu'on n'attend pas de réunir un capital de capacité de production pour se mettre à faire. Après, je vais être fatigué.
Je vais poser une dernière question.
Ouais. Je ne vais pas être fatigué, je le suis déjà, en fait. Mais...
de préciser, ou peut-être j'ai manqué, la différence entre vouloir et exiger, enfin, entre l'exigence et la volonté. Parce que le beau, c'est une exigence supplémentaire, mais en même temps, c'est involontaire.
Oui.
Donc, si c'est une exigence involontaire, ça veut dire que exiger et vouloir.
Alors, la volonté, telle que j'en ai manié la notion, le concept en particulier ce soir, donc c'est le livre 8 des Confessions de Saint-Augustin, où Paul lui-même, sauf que. Il y a des jeux de traduction, puisque Paul parle en grec, ne peut pas dire volonté, le mot n'est pas là. Enfin bon, chez Augustin, c'est... Donc la volonté, c'est quelque chose qui est à demeure chez moi, inhérent à la personne. C'est, intérieur. L'exigence, ça peut être quelque chose d'extérieur. Je suis exigé par quelque chose. Bah, pas que je veux.
Donc c'est pas j'exige.
Ah non, c'est pas j'exige. Non, non. Quand je dis le beau est une exigence supplémentaire, j'ai dit comme je pouvais, c'est un phénomène en dehors de moi qui se manifeste à la rencontre. Voilà. Et cette rencontre peut être tout à fait exigeante au sens où une fois que... Il faudrait reprendre les séances antérieures du séminaire, hein, ça y était dans un autre langage. Une fois que j'ai rencontré ça, qui est plus que bien, etc., je ne peux pas l'oublier. Et ça existe chez moi comme une exigence que je n'ai pas voulu, qui m'est arrivée. Voilà. Il m'est arrivé ça, et depuis... Ça, comment on peut le dire banalement, ça structure mon existence. À bientôt.
Merci.
Merci. Merci.
Ça y est,
10h30 quand même.
Je suis libéré.
Ah oui.
Je peux quitter le,
ah oui, c'est fini.
Le champ.
On va arrêter. Stop.
Quel beau message.
Quel beau petit message.